Alors, si, si, ça marche. Maintenant, ça marche bien. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que nous avons décidé de maintenir cette séance malgré le problème de santé de Dany Robert Dufour. On reprogrammera une séance avec Dany Robert Dufour. Donc, François Richard a accepté de venir malgré son absence et je m'en réjouis beaucoup. Je précise donc, François, qu'on enregistre les choses.
Oui.
Parce que le principe, c'est qu'ensuite, on met ça en ligne sur le site interne du collège. Et par la suite, on le mettra peut-être en ligne accessible sur la revue L'Amateur, avec un principe d'indexation de tout ce qui est enregistré, etc. Je t'expliquerai ça plus en détail, peut-être, si tu le souhaites, après la séance. Oui, parce qu'on n'entend pas très très bien, en effet. Alors, voilà. Je vais peut-être dire quelques mots pour resituer le contexte. Tout le monde ne sait pas précisément ce que nous faisons ici. C'est un séminaire fermé, donc c'est pas du tout une séance de travail public. Il y aura ensuite des moments de publicité, si je puis dire, à ce travail. Mais là, nous sommes dans une phase préliminaire qui a commencé au mois d'octobre avec Pierre Damien Huyck, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Et donc, le but était de travailler sur la question de la modernité aujourd'hui, disons. Je redis ce que je dis depuis 2-3 séances maintenant régulièrement, qui est qu'on a viré un petit peu, on a changé même profondément la nature de la commande, si j'ose dire. On passe aux personnes qui nous font l'amitié de collaborer à ce projet, et on a abandonné d'une certaine manière la question de savoir ce que c'est que la modernité aujourd'hui. En tout cas, on a abandonné le projet de poser la question de cette manière, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'on ramait et qu'on n'arrivait pas à la poser de manière intéressante. Et on a, depuis le mois de décembre, posé le problème de la modernisation et de savoir qu'est-ce qui se passe lorsque des processus de modernisation se développent, qui viennent de l'extérieur de l'Europe, même de l'extérieur de l'Occident, et qui sont donc affiliés à aucune modernité. Si ce n'est par effet boomerang, en tout cas qui ne se revendiquent d'aucune modernité. Et du coup, qu'est-ce qui distingue la modernité de la modernisation, etc., etc. Voilà aujourd'hui le projet sur lequel nous travaillons maintenant. Là, dès le début, avec Pierre Damien, lorsque nous avons commencé à élaborer une espèce de trame générale du programme que nous voulons mettre en œuvre, et avant même d'avoir fait ce virage, où là on a renversé profondément les termes, parce que c'est pas du tout la même question. Aujourd'hui, le titre exact de notre programme, qui changera peut-être encore, c'est « La modernisation contre la modernité ». Avec en sous-titre, d'ailleurs, en question subsidiaire, peut-être en note de bas de page, très discrètement, et pourquoi pas « La modernité contre la modernisation ». C'est-à-dire comme obstacle à la modernisation, voire comme refus de voir en face qu'il y a de la modernisation sans modernité aujourd'hui, et qu'après tout, peut-être que c'est avec ça qu'il faut penser vraiment. Mais sans oublier pour autant forcément la modernité. En tout cas, cela...
Être susceptible de fructifier par la considération de ce qui paraît lui échapper.
Exactement.
Formule.
Exactement.
Euphémisante.
Voilà, un peu ça. Avant même que nous n'ayons fait ce renversement, qui est un très lourd renversement en réalité, qui a des enjeux politiques évidents, nous avions immédiatement décidé que le premier jour... Puisqu'au départ, on raisonnait sur un colloque de 3 jours. On n'est plus tout à fait dans ce cas de figure aujourd'hui. Le premier jour, nous commencerions avec Jean-Pierre Dupuis, avec un certain nombre d'autres personnalités, sur la question de la catastrophe, dont Ulrich Beck. Parce que je pense que le débat Beck-Dupuis et un certain nombre de grands intellectuels français n'a jamais eu lieu, et que c'est très dommage, une perte. Et nous avions dit, nous serons la dernière journée sur la question du symbolique, la troisième journée, du désir, avec François Richard et avec Dany Dufour notamment. Avec la thèse suivante, alors qui reste valide, celle-là je la soutiens depuis le début, et elle reste valide pour moi avec la question de la modernisation, je dirais même qu'elle est plus que jamais valide, à mes yeux en tout cas. qui est que nous serions en train de vivre en ce moment, quand je dis en ce moment, c'est depuis les années 70, c'est-à-dire depuis qu'a commencé à se formuler un terme de postmodernité, qu'utilise beaucoup Denis Robert Dufour, sur lequel moi j'ai une certaine réserve, y compris dans son utilisation, c'est une des discussions que je vais avoir avec lui, mais à laquelle j'ai beaucoup participé moi-même. J'ai pas mal travaillé avec Jean-François Lyotard dans le passé, j'ai participé en tout cas de quelque chose qui n'est pas la même chose que la postmodernité, mais qu'on y rapporte souvent, à tort d'ailleurs, qui est la déconstruction. J'ai été quand même très proche, je suis toujours très proche de la pensée de Jacques Derrida. Et souvent, aux États-Unis, des constructions postmodernité, grosso modo, c'est pareil. Ce qui n'est pas du tout le cas, en réalité. Pas du tout le cas. Mais, quoi qu'il en soit, à partir du moment où la postmodernité est apparue, et ce qu'on a appelé le post-structuralisme dans les années 70, je crois que c'est en fait le début d'une expérience nouvelle qui s'est mise en œuvre dans le monde, appelons-le pour le moment, occidental et industriel, qui était ce que j'ai appelé la fin du désenchantement. Sachant que depuis maintenant 7-8 ans, je reprends beaucoup à mon compte la philosophie de Max Weber sur la genèse du capitalisme, que je ne vois plus du tout comme une opposition au marxisme, alors que c'était le cas pour moi dans ma jeunesse, comme beaucoup de mes collègues et de mes amis à cette époque, et puisque c'était Aaron, Max Weber, à cette époque-là, pour nous. Pour moi, aujourd'hui, c'est plus du tout aussi stupide et caricatural que cela. Max Weber, c'est très important, et Max Weber pose la question du désir, pour moi, dans l'esprit du capitalisme. L'esprit du capitalisme, selon Weber, c'est une question de motif, et si c'est une question de motif, dans des termes freudiens, c'est donc une question de désir. Ce que je crois, et je crois que je partage ce point de vue avec Pierre Damien Huyghe, il me corrigera là, s'il écoute cet enregistrement à qui il n'est pas d'accord, je le laisserai faire, mais je crois qu'on est d'accord là-dessus en réalité. Ce que nous croyons, c'est que nous sommes arrivés à un stade où le processus de désenchantement qu'a décrit Max Weber, mais qui avait toujours été accompagné de processus de réenchantement, ce que j'appelle des réenchantements relatifs, par exemple la philosophie des Lumières, qui est comme a dit Elisabeth de Fontenay, est un matérialisme enchanté de Diderot, en tout cas pour ce qui concerne Diderot, par exemple la notion de progrès au XIXe siècle, par exemple l'art moderne qui est un enchantement, ou le surréalisme qui est un surenchantement, si je puis dire, un surréenchantement. Il y a toujours dans ce désenchantement qu'a décrit Weber des mécanismes de réenchantement qui se produisent, c'est-à-dire qui viennent sauver la mort de Dieu, disons, si on parle de manière un peu massive. Je crois que depuis les années 70, et surtout depuis le 11 septembre 2001, parce que depuis les années 70, c'était quelque chose qui apparaissait plutôt dans les sphères, ce qu'on appelle les intellectuels, les artistes, etc., mais que depuis 2001, c'était quelque chose qui s'impose à absolument tout le monde, y compris Ben Laden, il y a un désenchantement absolu, un désenchantement sans réenchantement, et que du coup, il y a du réenchantement pulsionnel, réactionnel, appelons-le, on peut lui donner toutes sortes de noms. Alors, ça c'est le cadre général dans lequel, pour moi, la question du symbolique par rapport à la modernisation, à la modernité, s'impose de manière absolument radicale. Parce que la question du réenchantement, c'est la question de l'enchantement. Qu'est-ce que l'enchantement? Qu'est-ce qu'un enchantement? Et peut-il y avoir du désir sans enchantement? Mais peut-il, à l'inverse, y avoir de l'enchantement sans désir? Bon. Sachant que je soutiens par ailleurs depuis longtemps maintenant personnellement la thèse suivante, qui est que le capitalisme est une économie libidinale, et que cette économie libidinale a tendu à épuiser progressivement, on pourrait appeler ça les champs de réserves énergétiques de la libido, en pulsionnalisant progressivement, en décomposant le désir sous forme de pulsion. Alors, ayant rappelé ces choses-là, parce que c'est des choses qu'on a dites dans les séances précédentes, et je dis tout ça pour faire le lien aussi avec les séances précédentes, il se trouve que je lis depuis pas mal d'années les psychanalystes, évidemment Freud lui-même, j'ai été amené dans les années récentes à avoir des dialogues avec Denis Dufour sur ces questions, puisque lui aussi mobilise beaucoup la psychanalyse, Lacan en particulier, etc. Et nous avons des thèses proches, mais aussi nous avons parfois des points de vue quand même assez différents. Et puis avec François Richard, nous sommes entrés en contact l'année dernière, notamment autour de la question, une question non seulement m'intéresse, mais qui m'obsède littéralement, qui est la question, disons, de ce que parfois j'appelle le complexe d'Antigone, disons de la jeunesse, en particulier de l'adolescence, mais aussi des processus d'identification primaire et secondaire, du fait que je crois personnellement que la libido du capitalisme, plus exactement l'anéconomie libidinale capitaliste, je parle d'anéconomie comme on pourrait parler d'un anarchisme capitaliste, c'est ce qui tend à détruire les processus d'identification. Et d'ailleurs, ce contexte, la question de l'identité nationale posée brutalement par un candidat à la présidence de la République aujourd'hui, est un symptôme de cela, pour moi, très très directement. Alors, avec François Richard, nous avons échangé sur cette question l'été dernier. François Richard animant tout un travail, dont par exemple le livre qui est sur la table de la subjectivation est un des témoins, autour de ces questions de la subjectivation, notamment dans le domaine de l'adolescence et aussi une réflexion sur la parentalité. Et évidemment, pour moi, c'est au cœur de ces questions. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à l'inviter à participer à cette opération, parce que c'est une opération que nous faisons, notamment dans ce dialogue avec Dany Robert Dufour, et au-delà, y compris parce que nous avons des projets de collaboration entre l'Université Paris 7, où il enseigne, donc, puisque François Richard est donc professeur de psychopathologie à l'Université Paris 7, et l'Institut de Recherche et Innovation, où nous sommes ici, dans ce local magnifique, qui est une bonne représentation de la puissance publique française. Voilà. Donc, merci beaucoup, François. Et puis, je crois que je vais te laisser la parole. Voilà.
Alors, merci pour l'invitation au réenchantement, ou un nouveau réenchantement. 1968-78, j'avais fait un premier parcours entre 18 et 28 ans du côté du militantisme et des sciences sociales, et puis un parcours de analytique personnel m'entraîne à m'éloigner de ces discussions-là à partir de 78, où j'ai commencé à avoir une pratique analytique, donc assez jeune, à la fois, comme on dit, classique chez moi, et puis dans des services de psychiatrie de l'adolescente, donc depuis très longtemps. Je me suis spécialisé, on a animé une revue qui s'appelle Adolescence, qui paraît 4 fois par an. Voilà. Et à l'époque, en effet, j'étais immergé dans les discussions sur le début des approches de la postmodernité. Je me souviens que j'ai échangé beaucoup à l'époque avec Baudrillard, qui c'est pas lui qui a élaboré la notion de postmodernité, mais au fond, il en est un des penseurs les plus radicaux, justement, dans ce qu'elle peut avoir à la fois de passionnant et tout à fait critiquable, parce qu'entraînant un désenchantement mélancolique définitif. Et j'étais tout à fait heureux de trouver dans tes livres, Bernard Stiegler, la possibilité d'essayer à nouveau d'articuler une pensée freudienne qui tendait à se refermer sur sa clinique, sa technique, sa métapsychologie, et une pensée du collectif telle que Freud a essayé de l'avoir dans Malaise dans la culture, malgré tout, de façon assez forte. Et la façon dont tu cites Freud, surtout le Freud de la seconde topique, qui à mon avis sont les textes quand même les plus intéressants, l'accent que tu mets sur ce trouble profond de l'identification primaire dans les pathologies contemporaines et à un niveau collectif qui n'est pas seulement celui de la psychose infantile de certains qui viendraient à décompenser ultérieurement dans les pathologies addictives ou de l'agir à l'adolescence et plus tard. Non, il s'agirait du socle de l'identification primaire, c'est ce que je vais essayer d'aborder, dans le rapport à la parenté, parentalité et à la question du père. Mais sans catastrophe, justement. Sans catastrophisme, sans pour autant tomber dans une sorte de messianisme encore trop religieux, de dire c'est la fin des grands récits, c'est la fin de la fonction paternelle, c'est la fin du sujet de la névrose, c'est la fin de l'inscription de la subjectivation dans le rapport à l'Œdipe ou au père. Je crois que c'est beaucoup plus complexe et que si on, d'une part, on lit Freud, bon, comme j'essaye de le faire, comme le font certains de mes collègues psychanalystes, pas tous, comme je trouve que tu le fais. Et surtout, si on essaye de, je dirais presque refonder, en tout cas de reproblématiser la métapsychologie freudienne à la lumière des pratiques réelles des psychanalystes aujourd'hui, ce qu'ils font effectivement, où la tendance, dirais-je, dans ce que j'appelle la subjectivation,
hein, qui n'est pas du tout une théorie du moi ou du sujet, justement, c'est le processus. Il y a un aspect un peu deleuzien dans ce terme-là, où c'est repris à la fois de Foucault et de Deleuze, hein, c'est mettre en avant le processus de l'analysant, mais en même temps de l'analyse qui accompagne en quelque sorte à côté, en côte à côte, un peu en avant, et non pas en surplomb, en position d'interprète, en extériorité, hein, dans une fonction qui serait une fonction symbolique où il ne s'impliquerait pas comme sujet, mais plutôt dans un rapport de sujet à sujet sans transparence phénoménologique, hein, avec une sorte de hiatus dans la rencontre des deux sujets. Alors on en est un peu là. Je ne resterai pas dans des telles généralités, rassurez-vous. Je ne vais pas développer non plus des choses qu'on a déjà discutées, que j'ai publiées il y a quelques années. J'ai plutôt... prendre des recherches en cours, c'est plus vivant, en plus c'est comme ça que ça a été annoncé, une sorte de débat à plusieurs et pas vraiment comme une conférence. Alors j'ai là en cours un séminaire que je fais avec un collègue dans la vieille maison de la rue Saint-Jacques, à l'Institut de psychanalyse, à la Société psychanalytique de Paris. On essaye d'animer les choses de façon un petit peu plus moderne, justement. Un travail sur qui s'appelle la rencontre, l'interprétation et la reconnaissance dans la rencontre, hein, et qui traite des pathologies des limites et de l'omnipotence du point de vue de ce qu'on appelle, nous, le travail du négatif, à la suite du livre de Green sur le travail du négatif, il y a une dizaine d'années. Et puis, plutôt, ce que je vais reprendre là, parce que ça correspond mieux à ce que tu as énoncé sur le colloque, l'ordre symbolique, entre la catastrophe et la question de l'ordre symbolique aujourd'hui, hein, et de la postmodernité, un travail qui est en cours, que j'ai commencé à présenter déjà à l'Université Paris 10 il y a un mois, un colloque sur les images du père, que j'ai présenté un petit peu différemment là, et qui s'intitulait dans sa première version « Peut-on vraiment parler de déclin de la fonction paternelle ?» où je polémiquais un petit peu avec mes collègues, hein. Voilà. Alors, ce que je viens de vous dire, justement, sur cette notion de subjectivation que j'essaye de mettre en avant avec quelques autres, évidemment, c'est que... excusez-moi, je sors d'une...
J'étais comme ça il y a 3 jours.
Je vais pas vous faire une conversion, une hystérie de conversion. Bon.
Alors en plus, j'ai même pas pensé à t'apporter quelque chose à boire. Pas
oui. Non mais ça va aller. Tu m'entends là? Bon. Ça sera pour Bernard et pour le magnétophone. Vous verrez sur le site si je peux pas faire mieux.
Vous pouvez vous rapprocher.
Donc quand on discute entre psychanalystes, évidemment, de cette image du père ou de la question du père, d'emblée, on n'est pas dans une approche psychosociale. On est d'abord dans nos questions sempiternelles de transfert, évidemment, vous vous en doutez. Transfert de Freud sur son propre père, Jacob, hein, qui avait bien l'âge d'être son grand-père, son fantasme du père de la Horde, dont un thème est tabou. Le père oedipien, un peu plus civilisé tout de même que le père de la Horde. Et puis, à la fin de Malaise, ce qui apparaît, le surmoi culturel civilisé, qui doit faire suite, dit-il, et remplacer le surmoi individuel du névrosé guéri par la psychanalyse, mais qui est encore dans l'Oedipe. Et puis, il y aurait un surmoi culturel civilisé au-delà de l'Oedipe. Hein? Bon. Et puis, il y a un passage dans Psychologie des masses, dans la traduction de La Planche en tout cas, venant directement de l'allemand, où on peut-être un peu forcer la pensée de Freud, mais allons-y, où il est question à propos du petit garçon qui s'identifie de façon primaire à son père, qui prend son père comme idéal, qui constitue ainsi un moi idéal, un idéal du moi, prémisse d'un surmoi futur, hein, qu'il admire en tout point, qu'il voudrait être comme lui, mais qu'il l'aime aussi comme un objet. Il n'y a pas de différence à vouloir être comme et aimer d'un amour d'objet libidinal. Hein. Et un mot dans le texte allemand qu'on peut essayer de commenter, c'est que le petit garçon prend son père comme un « subject das ich », comme mot à mot, sujet de son « moi hein, », ou quelque chose comme un interlocuteur ou un premier autre semblable qui va lui permettre de se constituer lui-même comme sujet dans un rapport à un autre sujet, lecture modernisatrice, sans doute, de Freud, hein, qui tirerait la pratique analytique du côté de l'interlocution, hein, non pas du dialogue, hein, mais ni de la communication, bien sûr, hein, ce qui serait totalement contraire à l'esprit de la psychanalyse, mais quand même d'un rapport profond de sujet à sujet, où il y en a deux qui s'impliquent de façon authentique. Et ce qui peut faire penser, évidemment, à Lévinas, lorsqu'il dit que ce visage singulier, unique, pourtant inconnu, que je croise, par exemple, sur un quai de gare, m'interpelle dans sa singularité, son trait unique, et me constitue comme responsable de lui, que je le veuille ou pas. Bon. Donc, du côté de l'éthique, cette façon de lire Freud. Alors, cette discussion autour de la question paternelle, de l'évolution, des métamorphoses de la parenté, comme le dit Maurice Godelier, hein, des nouvelles formes de parenté, parentalité, famille recomposée, parentalité homosexuelle, etc. S'agit-il d'une évolution de la fonction paternelle, de cet autre, de ce subject das Ich freudien, d'une involution catastrophique? Alors, le goût du pathos nous ferait dire catastrophe d'une involution, hein, et la lâcheté d'un trop prompt compromis avec l'époque nous ferait dire très trop vite évolution. Hein. Et je dirais que je cherche une ligne médiane, hein, qui n'est pas excès de prudence, hein, qui est de bonne méthode, je pense, dans le contexte actuel. Lors d'une discussion sur ces questions avec Maurice Godelier à Cerisy, hein, on discutait de l'exemple pour lui paradigmatique de cette société tibéto-birmane, hein, qui est en Chine, qui s'appelle les Na, où les frères et les sœurs élèvent ensemble les enfants. Hein. Les pères sont inconnus totalement en tant qu'éducateurs. Il n'y a pas vraiment de concept de père. On sait fort bien, évidemment, que telle dame est tombée enceinte à la suite de relations sexuelles avec un de ses amants qui la visite la nuit, qui parfois peut être accepté le jour et devenir comme une sorte de petite amie toute la vie, mais qui ne sort pas de ce statut-là, hein, d'amant officiel ou de petite amie, mais pas de père. Et dans une discussion, j'en vins à lui opposer que tout de même, certes là, l'Oedipe n'était pas l'organisateur symbolique, très certainement, mais qu'on devait supposer, hein, que chacun dans cette société savait, de façon consciente ou inconsciente, peu importe, qu'un enfant humain était issu d'une scène sexuelle élémentaire entre une femme et un homme. Bon, hein, je me raccrochais à mon minimum de religion psychanalytique, ou occidentale du reste, parce qu'elle n'est pas spécifiquement analytique, hein, cette religion-là. Même si les concepts de père, voire même de géniteur ou génitrice, n'existaient pas. Hein. Eh bien, en reprenant cette discussion 2 ans plus tard, il me semble que notre modernité, dans son débat actuel sur le père biologique, le père éducateur, le père adoptif, le père homosexuel, le père donneur de matière génétique, le père qui fait des recherches ADN pour savoir s'il est vraiment le géniteur de l'enfant de sa femme, en Allemagne par exemple, etc., tous ces débats actuels retrouvent, sans savoir qu'en faire, dans un grand désarroi, ce roc biologique, justement. Hein, en quête de fonction symbolique. Je crois qu'on en est là, dans ces affaires-là. Alors, si on reprend les discussions classiques entre psychanalyse et anthropologie, hein, on voit que la fonction paternelle a toujours été théorisée comme essentielle, mais aussi comme ce qui ne va pas de soi du tout. Et l'œuvre de Freud elle-même apparaît à un moment où le père est à la fois idéalisé et contesté. Hein. J'y reviendrai. Alors, a-t-on affaire aujourd'hui à un refus hystérique du désir qui serait représenté par la figure paternelle? C'est ce que dit Charles Mellement, par exemple, hein, dans L'homme sans gravité que reprend Danny Robert Dufour, d'une crise du lien social engendrée par un effondrement du surmoi qui serait la condition d'un désir authentique parce qu'il saurait lier les pulsions, c'est la pensée de Bernard Stiegler, ou au contraire d'une évolution positive de la psychologie collective qui se dégagerait de la vieille névrose patriarcale, hein, qui serait le point de vue de Michel Thor, qui est psychanalyste et qui n'hésite pas à soutenir une thèse de ce type-là. Je dirais que la métamorphose de la fonction paternelle, de toute façon, ne peut être envisagée indépendamment de la transformation de la relation actuelle entre le féminin et le maternel, ce que j'envisagerais pas. Alors, les carences de l'autorité paternelle sont aujourd'hui, d'un point de vue clinique, hein, qu'on voit les adolescents dans des services de psychiatrie ou chez soi en psychothérapie psychanalytique, ou qu'on aille sur le terrain social sur un mode plus politique, hein, à l'évidence, les carences de l'autorité non seulement parentale, mais spécifiquement paternelle, hein, sont à l'origine de l'angoisse dépressive de nombreux enfants et adolescents privés de limites claires. Ça, c'est clair. Hein. Mais d'un autre côté, un nouveau type de positionnement des pères peut, je dis bien peut, donner la possibilité d'un appel à l'autre comme interlocuteur, hein, plus ouvert qu'auparavant à l'intersubjectivité. Voir la fin du film qui date un petit peu, et ça n'est qu'un film, bien sûr, le film de Kassovitz, La haine, hein, où le film se termine sur le revolver mis sur la tempe du flic par un des ados, enfin des très grands ados d'ailleurs. Le flic vient de tuer un de ses copains, un des adolescents ramasse l'arme du flic, la pose sur la tempe, et il hésite, hein, et on ne sait pas. Voilà, le moment de décision, de crisis, de refondement de l'éthique ou pas, ou du parricide ou de la figure d'un père possible, est là. Hein. Bon, dans ce film, où à aucun moment, on ne voit des pères, on ne voit que des mères dans les HLM, on voit des sœurs, on voit juste passer à un moment donné, dans les toilettes, je crois, de la coupole à Montparnasse, où ils sont partis en vadrouille, un vieux juif passé de façon énigmatique, mais c'est tout. Bon, hein. Pas de père dans le film. Malaise dans la culture, hein, mène à la situation actuelle de clivage entre une exigence sociale renforcée de morale, voire la campagne électorale populiste actuelle, et les manifestations individuelles et collectives chaque jour plus évidentes d'une déliaison pulsionnelle, destructrice de la sublimation et du désir. Je suis tout à fait d'accord là, avec tes hypothèses. À laquelle il ne sert à rien d'opposer un retour à l'ordre si celui-ci n'est pas fondé sur l'éros freudien, amour de soi et des autres, sublimation, hein, légitimation d'une autorité interne par le sujet et non pas imposée de façon formelle. Hein. Je crois qu'on peut le faire en psychanalyse en s'appuyant sur une notion. La psychanalyse, vous le savez, ne cesse d'importer des notions extérieures, hein, de phagocyter. Bon. Je parlais du travail du négatif et de la subjectivation tout à l'heure. Hein. Ça fait une quinzaine d'années qu'on essaie de travailler nos propres difficultés théoriques avec ces concepts. Il y a aussi un concept qu'on a importé en psychanalyse depuis une vingtaine d'années, qui est celui de tiercéité, hein, qui a été pris aux sémioticiens et aux philosophes américains Peirce par Green, et qu'on a essayé de penser en particulier en ce qui concerne la position du psychanalyste par rapport au patient, ou la position du père qui s'interpose entre le sujet et ses pulsions, entre le sujet et à risque de fusion avec les représentants archaïques imaginaires de la mère, hein, la tiercéité du côté de ce subject das Ich, hein, que je citais tout à l'heure, avec la complexité même de cette notion. Hein, si on reprend le Woezwar sur Lichtwerden de Freud, là où il y avait du ça, je dois advenir, enfin, on pourrait faire un colloque entier sur les traductions, peu importe. Hein. On voit la complexité de cette formulation, hein, puisque je dois advenir en étant en même temps dans ce rapport au sujet de mon moi qu'est l'autre. Hein, ça suppose le rapport à l'autre aussitôt. Et en plus, ce jeu qui doit advenir est lui-même divisé profondément par la frontière entre le conscient et l'inconscient, par le fait que le moi lui-même est écartelé entre le ça et le surmoi, et que le moi lui-même n'appartient pas totalement à la sphère consciente, hein, si on lit Freud attentivement. bon, sans idéaliser de telles formules. Le processus de subjectivation, de ce point de vue, tel que nous l'entendons, doit surmonter l'excès de prégnance des images. Dès lors que le père d'un de nos patients, par exemple, devient pensable à partir du moment où notre analysant est capable de repérer son père, non plus comme un personnage fantasmatique ou relationnel, ou investi de libido, ou de haine, ou d'amour, mais il est repéré dans sa propre généalogie, son père, comme ayant lui-même des parents, des grands-parents, ayant été lui-même un petit enfant, ayant été lui-même quelqu'un de perdu et d'égaré à certains moments, étant lui-même un autre. Bon, un peu comme sur le style de la conclusion des mots de Sartre, par exemple, avec une tonalité de ce genre-là. À partir de ce moment-là, le père n'est plus un absolu fantasmatique auquel se confronter pour s'y identifier ou pour le tuer et le dépasser. Il y a un tiers qui s'est interposé entre l'analysant et son propre père, et une dialectisation possible. Et du même coup, ce père devient accessible à un échange possible, soit dans la réalité, soit dans un échange psychique interne. Donc, je disais à mes collègues dans la première présentation de ce topo, que j'ai un peu modifié, il faut nous prémunir contre le risque de nous enfermer dans une conception d'autant plus réactive qu'elle n'est pas fausse. Et n'opposons pas notre ressentiment de psychanalyste à l'actuel ressentiment hystérique généralisé contre le père, qui par ricochet atteint aussi les psychanalystes, comme étant des supposés défenseurs de la religion paternelle. Du reste, ce ressentiment généralisé contre le père, c'est peut-être une façon trop rapide de penser les choses, c'est peut-être plus compliqué. C'est comme ce qu'on appelle maintenant les pathologies borderline, qui ne seraient ni névrotiques ni psychotiques. Ce sont des avatars de la subjectivation imparfaite, des subjectivations tombées en panne, qui ont toujours à voir avec la question du père défaillant, absent, oui, à première vue, sans doute surtout devenu hyper complexe à représenter. Nous ne disposons plus d'image et de figure du père. Ça ne veut pas dire qu'il y a une disparition de la fonction. Il y a peut-être à recréer des figures du père, ou à les repenser. Contrairement à ce que font semblant de croire les politiques, je ne sais même pas s'ils font semblant de croire, de toute façon, par parenthèse, la fonction paternelle ne se décrète pas dans un retour à l'ordre automatique. Proclamer partout des interdits ne peut qu'aggraver, point de vue d'un psychanalyste, la tension entre ça, moi et sur moi, et la difficulté à soutenir des identifications et des sublimations. Alors là-dessus, dans notre propre communauté de travail, on est rentré parfois dans des bagarres importantes. Moi, j'ai travaillé pendant 26 ans dans le service de psychiatrie de l'adolescent et du jeune adulte de l'Institut Mutualiste Montsouris, là, dans le 14e, dirigé par Philippe Jamet, qui vient de partir à la retraite, donc j'ai travaillé 26 ans avec lui. Il est devenu, si je puis dire, nouveau réactionnaire dans la psychanalyse depuis 5, 6, 7 ans sur ces questions-là, pensant qu'on pouvait justement proclamer un retour à un surmoi qui tienne par une politique éducationnelle, par la politique, et du même coup, petit à petit, faisant que son service s'oriente de moins en moins vers des prises en charge de type psychanalytique. Là, je suis en discussion avec un psychiatre-psychanalyste qui est expert à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, et je peux vous dire que c'est bon, il veut qu'on fasse des collaborations avec le laboratoire sur l'adolescence que je dirige à Paris 7 pour essayer de sauver une approche psychanalytique au sein de la PJJ où il semblerait qu'on ait déjà anticipé le résultat des élections. Et au sein même de la communauté de travail des psys au sens large, on met en difficulté sur ces questions-là. Je remonte en arrière à 1930, Freud dans Malaise, où il cherche à cerner la contradiction d'un excès d'exigence de répression des pulsions ou des besoins pulsionnels, dit-il. Ce qui correspond d'ailleurs à ce que tu dis, déqualification de la pulsion elle-même. Des besoins pulsionnels aboutissant à leur retour sous une forme pervertie, la ruse de la pulsion interdite qui s'introduit dans l'instance interdictrice, c'est la grande hypothèse de malaise dans la culture, mais aussi de deuil et mélancolie, hein, au fond, une sorte de perversification du surmoi qui deviendrait sadique et qui, sous l'espèce de régime totalitaire ou de néo-barbarie, on est quand même en 1930, hein, de néo-barbarie, permettrait aux pulsions de s'exercer au nom de la morale et de l'ordre. Hein, sadisme du surmoi culturel collectif, de moins en moins civilisé, là, pour le coup. Ou alors délitement, effondrement de ce même surmoi, ou les deux choses à la fois. Maintenant, c'est un peu ce qu'on peut imaginer. Il faut imaginer soit des régimes totalitaires barbares, soit une sorte de délitement et d'effondrement généralisé, comme issue fâcheuse du malaise. Là, on est en train de voir une sorte de mélange confus des deux, hein, me semble-t-il. Du coup, cette contradiction dépeinte par Freud dans Malaise s'est complexifiée. Et on n'est plus tout à fait sûr de pouvoir la reconnaître. Hein, on assisterait, à certains égards, au triomphe. Bon, j'ai repris ce mot, parce qu'il me semblait adéquat à Bernard-Henri Lévy, la barbarie à visage humain, hein, qu'il avait utilisé à propos de l'humanisme des régimes staliniens, hein, de l'humanisme structurel des régimes staliniens. Hein. Il me semble qu'il y a quelque chose dans l'époque, dans le capitalisme contemporain européen, ou américain encore plus, quelque chose de ce type-là. Hein, où désormais ce n'est plus la civilisation qui échoue à surmonter l'animalité chez l'être humain, ça c'était l'hypothèse première de Freud, hein, presque naïve à certains égards, hein, mais la barbarie toujours qui, arrogante, emprunte le discours politiquement correct comme pour mieux en montrer l'inanité. Hein, on a l'impression d'une sorte d'ironie des discours de chaque fois plus moralisateurs des politiques et des commentateurs journalistiques, d'ailleurs qui n'hésitent pas à le dénoncer, et d'une sorte d'impuissance de la raison critique par rapport à ça qui doit nous interroger. Hein. La barbarie semble mettre bas les masques et avouer que le progrès n'avait été qu'une couverture dont elle peut désormais se passer. D'où le mélange actuel détonnant entre une volonté collective éducationnelle, respect de la singularité des désirs de chacun, je ne vais pas faire une liste des catégories, de la nature, des différentes cultures, de l'enfant, hein, comme grand sujet ou sujet, peut-être privilégié, à condition qu'une bonne parentalité y veille. D'un côté, on a ça, et de l'autre côté, une absence de limite. Je dirais pas au déferlement pulsionnel, mais aux représentations, en tout cas, de la violence perverse et psychopathique, hein, dont la corrélation, quand même, avec la recrudescence des violences privées, interindividuelles et intrafamiliales, mais aussi des violences sociétales dites incivilité quotidienne un peu partout, ou dans les banlieues, ou dans les fameux quartiers, est bien sûr évidente. Hein. Il y a quelque chose d'une causalité presque trop visible entre la crudité traumatique d'un excès de représentation de la violence, hein, et aussitôt sa mimésis dans l'agir. Ce qui ne veut pas dire, à mon sens, j'y reviendrai, qu'on a affaire à une disparition totale du refoulement. Ça, c'est un point très important qu'il faudrait discuter. Hein. En effet, il me semble que tous les discours qu'on entend, justement, alors, ça mériterait qu'on en parle. Toi, tu ne parles pas du déclin de la fonction paternelle, tu parles d'un déclin du surmoi, et au sens du surmoi culturel civilisé. C'est pas pareil. Hein. Mais les discours qu'on a, qui sont permanents sur ce déclin de l'autorité, de la fonction paternelle, hein, d'un défaut, donc, de contention éducationnelle et de bon refoulement des pulsions, des pulsions issues du sexuel infantile, au sens freudien. Hein. Le grand livre révolutionnaire sont les trois essais sur la théorie sexuelle, hein, sont sont vraiment d'actualité, là, hein, sur ce rapport que semble poser Freud entre l'innocence du sexuel infantile, parce qu'il y a des passages quasiment libertaires, un peu utopistes dans son propos, et en même temps le lien qu'il fait que l'intolérable et l'insupportable pour l'humain, ce sexuel infantile, entraîne le refoulement et la névrose, et si c'est pas ça, ça va entraîner la perversion psychopathique, et là, pour le coup, vraiment destructrice de l'adulte. Il me semble que ces discours qui sont tenus actuellement sur cet échec du refoulement et de la fonction paternelle, hein, en tant que discours un peu commun, hein, organise peut-être des nouvelles formes de ce qu'en Espagne, les Espagnols appellent, quand ils traduisent Freud, pour traduire refoulement, ils disent répression. Hein. Donc des nouvelles formes, si ce n'est du refoulement, du moins de la répression, hein, du sexuel infantile et du désir individuel. Hein. Alors sous la forme de complexe du clivage, ou le clivage recouvrant peut-être parfois le refoulement. Hein, parce que le contrôle social s'effectue maintenant dans le paradoxe de la libération, c'est assez évident. Hein. Et la libération pulsionnelle, sexuelle, proclamée depuis une trentaine d'années, hein, est en réalité quelque chose qui est nettoyé, si je puis dire, hein, du rapport singulier que chacun peut entretenir intimement avec ses propres, avec sa propre histoire, hein, avec ses propres, ce que nous, dans notre langage barbare, on appelle les objets internes, hein, nos objets internes issus de nos imagos parentales les plus primitives et les plus infantiles, hein, mais aussi dans notre rapport singulier que nous avons avec l'ambivalence entre Eros et la pulsion de mort. Hein. Et donc le refoulement serait toujours là dans la transparence, hein, et la banalité de la multiplicité des plaisirs et de la satisfaction hygiéniste des besoins. Hein. Alors, il n'y a rien d'étonnant à voir converger l'envahissant discours social actuel sur le bien, la tolérance libérale libertaire pour tout ce qui advient, hein, car je crois que des deux côtés, hein, il y a la même défiance envers ce que nous on appelle l'engagement subjectal dans le rapport aux pulsions, hein, dans le rapport à l'autre et dans le rapport à l'objet, en passant par la pulsion. Et c'est ça qui se défait dans les pathologies ni névrotiques ni psychotiques limites. C'est pas que le sujet ne soit plus là, c'est pas que le désir soit plus là, c'est pas que l'autre ne soit plus là. Il n'y a plus l'ensemble continu, hein, d'un sujet qui est dans un rapport intime psychique intérieur à sa propre sexualité, à ses pulsions par rapport à son histoire passée, et en même temps qui le mène directement dans son rapport amoureux à l'autre, hein, dans une claire cohérence de l'ensemble de ce système. Ce qui fait que le partenaire ou l'interlocuteur est plus du côté de l'objet partiel, en effet, que de l'objet oedipien. Bon. Et que sous l'apparence de liens qui peuvent être en apparence forts, il y a un désengagement permanent, un évitement permanent. Hein, ce qui produit des relations parfois de dépendance extrêmement forte, d'addiction relationnelle, pourrait-on dire, hein, d'agrippement relationnel, qui sont tout à fait caractéristiques dans certaines crises de couple, et encore plus dans certaines crises de séparation impossible entre parents et adolescents. Pensons, hein, à la crise de nerfs entre une adolescente anorexique et sa mère, hein, dans l'impossibilité de défaire ce lien. Bon. Alors, j'avais rajouté là un petit passage en prévision de la discussion d'aujourd'hui, hein, après avoir lu le livre de Robert Denis Dufour sur l'art de réduire les têtes, hein. J'ai lu plus récemment que les tiens, hein, et lui il met beaucoup l'accent donc sur cette catastrophe du refoulement et de l'effondrement d'un ordre symbolique, se référant à un courant de la psychanalyse peut-être plus lacanien que mes propres références, hein. Et j'ai repensé là que toujours dans Malaise dans la culture, il y a un passage où Freud, un peu désolé de cette crise de l'autorité qu'il croit constater en 1930, parlant des jeunes à l'abandon, il dit pas les adolescents des banlieues, il discute avec Auguste Eichhorn, qui est un des premiers psychanalystes non médecins dans la société psychanalytique de Vienne dans ces années-là, qui était ni psychiatre ni psychologue, éducateur, et qui avait fondé les premiers centres d'accueil pour adolescents en fugue et provenant généralement de familles totalement désorganisées et plutôt de milieux prolétariens. hein, et pour essayer de leur fournir de nouveaux cadres de parentalité, et avec des techniques d'éducation tout à fait libertaires. Bon, c'est les premières tentatives de ce type-là. Hein. Et observant que finalement, ces jeunes qui manquent d'autorité, et Freud là emploie le terme de l'autorité abaissée et humiliée du père, dit-il. Et puis il ajoute un peu plus loin, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, qu'il ne s'agit pas dans son esprit seulement de ces jeunes laissés à l'abandon par la société, hein, pour des raisons sociopolitiques, mais qu'il pense aussi bien aux adolescents atteints d'inhibition névrose obsessionnelle qui voient dans son cabinet les enfants de bourgeois viennois, hein, et qui eux aussi souffrent de l'autorité humiliée et abaissée du père, hein, mais simplement qu'ils ne la traitent pas ou qu'ils ne peuvent pas la traiter de la même façon. Interdits qu'ils sont, les seconds, les enfants de bourgeois, de pouvoir se livrer à une agressivité sans limite face à ce qui a fait défaut, dans une rage vindicative et vengeresse, hein, dans une demande de réparation destructrice, ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ont intégré un minimum de surmoi, ayant été élevés malgré tout avec amour. Donc c'est très complexe. Freud reconnaît qu'ils ont un surmoi qui fonctionne quand même pas trop mal, même trop bien, puisqu'ils sont névrosés du côté de l'inhibition et de la névrose obsessionnelle. C'est donc un vrai surmoi. Et en même temps, il dit l'autorité du père est abaissée et humiliée pour eux. Et il est en train de parler du malaise de la culture en 1930. Donc, c'est pas pour dire que Freud avait déjà vu les choses d'aujourd'hui. On n'en est plus là en psychanalyse, hein, à utiliser Freud comme ça. Hein, mais c'est plutôt pour dire que ce dont nous traitons maintenant, de cette crise de la modernité, qui se voit peut-être attaqué par des processus de modernisation destructeurs, hein, bah, finalement, c'est la crise de, déjà relativement ancienne, quand même, de la modernité. Hein. Et un peu plus loin, Freud se dit, nous avons discuté avec certains de nos collègues de la possibilité d'envisager une prophylaxie psychanalytique de cette crise du social et du politique, hein, comme nous avons mis en place des centres pour faire des psychanalyses d'enfants ou des centres pour l'éducation, etc. Utiliser la psychanalyse hors la cure psychanalytique pour faire une sorte de psychothérapie sociale, en quelque sorte. Mais il dit, en ce qui concerne ce dont je parle là, ce malaise de la culture, eh bien, c'est pas possible, parce que précisément, ce qui est en cause et en difficulté, c'est que n'existe plus un lieu d'autorité dont on pourrait édicter auprès des citoyens la possibilité de mettre en place une telle politique de prophylaxie psychanalytique que lui avaient suggéré certains des membres de la société psychanalytique de Vienne, hein, dans le premier moment de développement de la psychanalyse, qui avait des visions, des visées de ce type-là, en quelque sorte. Hein. Bon. Donc là, on retrouve bien ce que dit Dufour, sur tout d'un coup, cet effondrement du lieu de l'autre ou du sujet de la névrose. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'origine de la psychanalyse, ce sujet supposé structuré dans l'ordre névrotique et ses modalités de symbolisation, ça existe, bien sûr. Hein. C'est bien de cela dont parle Freud à propos de toutes les modalités de condensation, déplacement, métaphore, métonymie, etc. Bien sûr. Et c'est là qu'est le désir du sujet. Mais en même temps et au même moment, il disait que quelque chose au cœur même de ce dispositif commençait déjà à ne plus fonctionner. Hein. D'où l'hypothèse, donc, qui nous mène alors au malaise contemporain, hein, qui est celui 1930, mais déplacé, en quelque sorte, porté au carré, démultiplié, encore plus cru, encore plus manifeste, hein, mais où je persiste à penser que sous les apparences d'une pulsionnalité sauvage, quelque chose de la répression, si ce n'est du refoulement, hein, du désir le plus singulier qui garde, à mon sens, alors je reste peut-être dans les réenchantements surréalistes, j'ai peut-être une lecture comme ça de Freud de ce côté-là, que c'est ça qui continue à être réprimé quand on donne aux pulsions à consommer immédiatement des images toutes faites ou des passages à l'acte aussitôt montés en épingle. Hein. Et qu'on a bien affaire ce que tu appelles dans ta lecture de Marcuse, hein, une désublimation qui serait à la fois dépressive et répressive, au fond. Hein. Bon. Où l'intériorité psychique de la névrose s'évite elle-même, se fuit elle-même en s'externalisant. Hein. Mais sans qu'elle disparaisse. Hein. La capacité de transfert est toujours là, d'autant plus en attente d'interlocuteurs de l'autre sujet, de ce que j'avais en introduction nommé ce sujet du moi, subject d'Azic, hein, et que nous ne devons pas nous laisser impressionner, hein, par l'exhibition, les simulacres, hein, qui semblent nous montrer tout à fait le contraire. Hein. S'agit-il de jouir à tout prix, comme le dit Melman, du côté de la perversion, hein, s'agit-il de la catastrophe du vrai désir, hein, est-on dans les pathologies du lien où la question de l'Œdipe n'est plus vraiment importante, comme le disent certains de nos collègues au sein de la psychanalyse, qui s'orientent vers des approches familiales, de thérapie familiale. Je citais Philippe Jamet, mais il y a aussi Serge Effès, qu'on entend souvent sur les ondes parler de cela. Hein. Étrangement, donc, la sexualité semble disparaître de notre système de pensée et de représentation. Hein. Le besoin psychique interne de référence, pour autant, ne diminue pas, hein, ce qui entraîne donc cette désublimation répressive et dépressive, et aussi un sentiment de ce que Paul Ricoeur appelait la discordance. Hein. Et c'est là, je crois, que la fonction paternelle se voit à nouveau sollicitée. C'est dans ce moment-là, c'est dans le moment de la discordance interne entre un besoin interne de référence, pour reprendre un mot de Pierre Legendre, plutôt que la loi, je dirais la référence, hein, et en même temps ce délitement des interdits du côté social. Bon, dans cette discordance, voilà qu'à nouveau, du père, de la fonction paternelle, est sollicité. Pour inventer quoi ? Peut-être un nouveau lien social, plus démocratique, tout en restant intergénérationnel, quand même. Hein. Ce n'est pas la grande fratrie d'une groupalité régressive. Hein. Et je dirais donc que la fonction paternelle ne disparaît pas, elle change. Et alors ça, c'est peut-être un pari un petit peu optimiste, que dans ce moment de transition, on pourrait peut-être même dire que la fonction paternelle tient, paradoxalement, grâce à ses défaillances, à son semblant d'absence. Bon, de la même façon que les processus de subjectivation se tiennent en retrait sous les apparences d'une forclusion, peut-être, des sujets dans les pathologies borderline, hein, qui ne sont pas la psychose, justement, hein, ben, de la même façon, du père ou les pères, hein, sont bien là et se tiennent prudemment en retrait, hein, un peu silencieux, hein, peut-être pour qu'on leur demande un peu plus d'être là, hein, pour rejouer l'épisode fondateur, hein, du Dieu absent, du Dieu qui n'existe pas, de la disparition du lieu où il y avait Dieu au moment de l'invention du monothéisme. Il n'y a plus qu'un espace vide où il n'y a pas de lettres pour nommer, il n'y a ni voyelle ni consonne, il n'y a rien, hein, c'est entre deux mots, c'est entre deux lettres, hein, c'est un passage du différent de Lyotard, hein, assez beau, où il dit qu'entre deux phrases il y a un gouffre, tout s'arrête et tout va s'arrêter là. Donc c'est la fin de... Mais c'est exactement l'espace où, dans un autre texte, Lyotard lui-même avait vu l'émergence un peu hallucinatoire du monothéisme. Hein. Il voyait presque la pensée du premier judaïsme comme quelque chose d'un phénomène psychotique. Il y avait une grosse polémique, il s'était fait engueuler. Bon, enfin, bon, on imagine. Bon. Bon, alors, voilà, la fonction paternelle rejoue peut-être ce moment-là. Hein. Pour Freud, c'était plus simple. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui n'imaginait sans doute pas la paradoxie. La paradoxalité, la complexité de la situation actuelle. Hein. N'imaginez pas, bon, toutes ces formes de désir et de conduite où les sujets veulent une chose et le contraire en même temps, en permanence. Hein. Bon. Pour lui, le conflit oedipien, l'Oedipe, engendrait l'angoisse et le symptôme. Mais au sein même de la psychanalyse, hein, on peut remarquer tout de même, c'est intéressant, que de plus en plus on a vu l'Oedipe, comme on dit, l'Oedipe. Pas le complexe d'Oedipe, on ne dit plus le complexe d'Oedipe, hein, on dit l'Oedipe, comme un organisateur symbolique, Ça, c'est issu, surtout en France, de la discussion entre les psychanalystes et l'anthropologie, essentiellement de la rencontre entre Lacan et Lévi-Strauss. Hein. Mais pas seulement, il y a aussi toute l'anthropologie du côté Mauss, du côté Godelier ou Juviera plus récemment, hein. Et l'Œdipe est devenu un organisateur symbolique social, hein. L'Œdipe comme du côté de l'ordre et de la guérison, alors que pour Freud l'Œdipe, c'est dans sa lecture de l'Œdipe grec, c'est assez catastrophique. Ça mène vers une sorte de folie limitrophe de la psychose. L'Œdipe, d'ailleurs, l'Œdipe grec lui-même, personnage, enfin, sauf à la fin, Œdipe à Colonne, où là, porté par Antigone, il se retranscende comme sujet transcendantal, il devient un thérapeute, il est consulté, il est bon, il va remonter là au ciel, hein, il est retiré vers le haut, l'Œdipe, là, mais sinon, il persécute ses fils, il est épouvantable, enfin, il n'assure pas du tout la fonction paternelle, il est du côté du père de la Horde. Le père de la Horde, tel que Freud décrit dans Totem et Tabou, c'est le type qui veut garder toutes les femmes de la Horde pour lui et qui veut éliminer tous ses enfants mâles dès qu'ils deviennent pubères, hein. Qui n'ont comme autre solution que de fuir et se regrouper au loin, sinon ils sont castrés et deviennent schizophrènes, dit Freud dans un autre texte. Hein. Donc c'est un père psychotisant, ce père de la Horde, et il est un représentant d'une économie libidinale narcissique à l'état pur. C'est un représentant de la psychose. Hein. C'est quand même remarquable qu'au cœur de Totem et Tabou, hein, du mythe fondateur du père comme nécessaire à la civilisation, de la figure du père mort fondateur de la loi, ça on connaît tout ce qui vient après, on connaît, mais que le point de départ, c'est une figure de père qui n'en est pas un, justement, qui échoue, hein, puisqu'il est dans cette folie psychotique de l'économie libidinale narcissique. Alors, on a un peu oublié ça en psychanalyse, hein, et l'Œdipe est devenu structural, hein, sans doute dans un malentendu, la lecture de Lacan, de Lévi-Strauss par Lacan, Lacan ne percevant pas que l'inconscient lévi-straussien était asubjectal, hein, alors que l'inconscient lacanien quand même comporte la dimension d'un sujet. Bon, et qu'au fond, la psychanalyse est malgré tout plus proche de Mauss que de Lévi-Strauss. Hein. Alors, du coup, l'Œdipe est devenu un héritage symbolique qui se transmet de génération en génération. Hein, du côté du père, du côté de la bonne identification au père, que ce soit de la petite fille ou du petit garçon, c'est ce qui introduit à la socialité. Hein, voilà. C'est ce qui permet d'extraire l'enfant du face-à-face duel avec la mère, qui l'introduit au triangle de la petite enfance, la famille, et qui lui permet d'aller au-delà, dans les groupes d'au-delà de la famille. Hein, voilà. Bon. Lecture psychosociale de Freud, hein, et mythe occidental, hein, d'un danger de régression excessive vers l'objet maternel, hein, fantasme qui appartient à la psychologie collective, hein, mais qui ne manque pas de pertinence, puisqu'en effet, en même temps, tous ces enfants et ces adolescents perdus souffrent en effet de ne pouvoir se référer suffisamment au tiers paternel et se voit envahi en permanence par une proximité psychique avec l'objet maternel qu'il porte en eux, évidemment, il ne s'agit pas de leur mère réelle, mais de la mère en eux, du maternel informe en eux. Bon. Mais ce n'est pas parce que c'est bien au cœur de leur pathologie que ça n'est pas un mythe collectif que nous devons interroger. Hein. À nouveau, pour dire qu'il ne s'agit pas de reparentaliser de façon automatique, de réinstituer du père de façon automatique en simulacre. Ça ne marche pas. Hein. Encore que, évidemment, dans notre technique psychanalytique, que nous soyons des psychanalystes hommes ou femmes, dans la réalité de nos personnes, hein, nous adoptons spontanément, hein, et délibérément en même temps, un positionnement d'interlocuteur paternel avec nos patients, au moins autant que de soutien maternel. Là, ça c'est bien sûr au cœur de la psychanalyse. Alors, je reviens à ce passage sur le père qui est dans malaise, à propos de la jeunesse à l'abandon. Je cite cela. Le père, excessivement faible et indulgent, deviendra chez l'enfant un facteur occasionnant la formation d'un surmoi excessivement sévère. Tiens. Parce qu'il ne reste à l'enfant, sous l'impression de l'amour qu'il reçoit, aucune autre issue pour son agression que de la tourner vers l'intérieur. Chez l'enfant à l'abandon qui a été éduqué sans amour, la tension entre le moi et le surmoi disparaît, toute son agression peut s'orienter vers l'extérieur. Sans vouloir faire l'exégèse infinie des textes fondateurs, c'est intéressant de constater que le père excessivement faible et indulgent, c'est-à-dire le père d'aujourd'hui, 2007, devient chez l'enfant pour Freud non pas un facteur qui va occasionner un déficit du surmoi, mais ça va occasionner pour lui la formation d'un surmoi excessivement sévère, parce que cet enfant, ayant été éduqué avec amour, va lui-même produire du père de simulacre terrifiant à l'intérieur de lui-même pour contre-investir toutes ces pulsions qui se libèrent, parce qu'il ne veut pas, il décide de ne pas les libérer pour ne pas détruire ces bons objets parentaux qui l'ont aimé et qu'il aime. Donc il s'agit là aussi, il y a sur moi et sur moi. Donc, c'est ce que tu développes, en effet. Et au contraire, chez l'enfant à l'abandon, qui a été éduqué sans amour, à ce moment-là, évidemment, toute l'agression peut s'orienter vers l'extérieur, ce qui est la description tout à fait actuelle des adolescents d'aujourd'hui, qui provoquent par leur conduite les interventions répressives de la société, mais qui sans doute, surtout, manquent d'amour, et aux yeux desquels c'est la société tout entière qui incarne le triste rôle de l'autorité ainsi abaissée, celui du père. Et quand Freud dit cela, il faut voir que c'est dans tout un développement où auparavant il a parlé de la crise politique, la crise sociale des années 30, du fait qu'on ne pouvait pas faire un programme psychanalytique politique, parce qu'il n'y avait aucun lieu qui ait assez d'autorité pour les dicter et se faire entendre dans la société. Donc c'est pas de la psychopathologie dans un certain secteur seulement, d'enfants qui ont des pères trop faibles et qui deviennent obsessionnels, ou qui au contraire deviennent agressifs, et qui concerneraient qu'une partie de la population. Cette notion d'autorité paternelle abaissée concerne pour lui la figure du père dans l'ensemble de l'imaginaire collectif, ou de l'ordre symbolique collectif qu'on ne peut pas concevoir en dehors d'un imaginaire que cet ordre organise et dont il se nourrit, bien évidemment. Dans la conception lacanienne de l'ordre symbolique, c'est l'imaginaire qui nourrit l'ordonnancement symbolique lui-même, bien sûr. Destin névrotique et destin hors toute limite, si on reprend cette citation-là, de ces jeunes confrontés à une autorité du père rabaissé, destin névrotique, la structure de la névrose, supposée solide, et le destin hors toute limite qu'on lui oppose, généralement, proviendraient tous deux du triste rôle de l'autorité ainsi abaissée, celui du père. Ce qui peut apparaître comme une contradiction par rapport à notre vision habituelle, une tripartition bien solide entre la névrose, la psychose et puis ce qui serait tout le reste. Où on accepte que là ce soit beaucoup plus flou et complexe à penser et beaucoup moins structuré, mais on imagine que du côté de la névrose et de la psychose il y a quelque chose d'extrêmement structuré. Là on voit qu'on peut, j'ai essayé de vous montrer qu'on pouvait essayer de lire Freud un peu autrement, qu'il y a là une contradiction et que cette contradiction est presque un oxymoron dans la pensée de Freud et dès le début de la psychanalyse, qu'au moment même où les psychanalystes mettent le père au cœur de leur doctrine, très fortement chez Freud, peut-être pour des raisons de névrose personnelle, c'est renforcé chez Lacan de par aussi l'influence du catholicisme sur lui, etc., très certainement, mais c'est aussi une contradiction qui est propre à l'époque, à l'esprit de l'époque, et c'est ce dont témoignent nos analysants hommes, dont je dirais qu'ils sont peut-être plutôt du côté des subtiles incertitudes d'être, et en écho à la douleur d'exister, qui est peut-être plutôt du côté de nos analysantes femmes. Alors j'ai essayé de soutenir là que la généralisation statistique des fonctionnements limites, des symptomatologies limites d'un point de vue psychiatrique, ne signifie pas pour autant la disparition du modèle de la névrose. Ça amène à le complexifier, à le reproblématiser. Hein. Et nous avons, je crois, affaire plutôt, c'est ce qu'on a essayé de montrer donc, avec d'autres collègues dans ce livre collectif La Subjectivation, qui est récent, hein, peut-être, alors on reprend peut-être un peu vite, je ne sais pas, le paradigme de l'hypercomplexité des processus, en l'occurrence des processus complémentaires de subjectivation et de désubjectivation, qui sont dans une sorte de dialectique permanente. Hein. Négation, négation de la négation, mais on n'est pas toujours assuré d'avoir la négation de la négation. Hein, on n'est pas dans une discursivité historique hegelienne. Ça ne marche pas toujours. Si on prend Die Verneinung de Freud, la négation, hein, ses textes les plus forts et les plus difficiles, d'un côté, on peut le lire comme Lacan dans sa discussion avec Jean-Hippolyte dans les écrits, du côté d'un sujet qui se construit sur la dialectique de la négation et de la négation, mais il y a un petit passage aussi où Freud dit que dans ce mouvement de la négation, hein, où le sujet expulse hors de lui tout ce qui est mauvais, tout ce qui est désagréable, tout ce qui est objectal, tout ce qui est fantasme, pour se constituer comme une sorte de négativité radicale, à un moment donné, il peut être pris par le processus d'expulsion lui-même à un tel point, hein, qu'il entrerait dans la destructivité de la psychose, hein, et qu'à ce moment-là, il n'y a pas de renversement dialectique de la négation. Donc voilà, on a affaire à des formes de subjectivation où le négatif, par l'accompagnement psychanalytique, nous pensons qu'il peut se voir nier et retourner de la panne où était la subjectivation en redémarrage, mais ça n'est pas garanti. Hein, nous ne le garantissons pas. Alors que dans la prise en charge des névroses, au contraire, il y avait quand même une méthode, hein, qui disait... Normalement, si le psychanalyste est bien formé, si on a bien posé l'indication de psychanalyse, et si le sujet est vraiment dans la structure névrotique, à ce moment-là, il n'y a pas de raison, hein, qui ne surmonte pas ces difficultés. Là, c'est devenu plus complexe. Hein. Et sans doute qu'au début de l'histoire de la psychanalyse, cette complexité, cette dialectique de la subjectivation et de la désubjectivation a été sous-estimée. Mais elle est présente, bon sang. Hein. Il suffit de prendre le président Schreber, hein, schizoparanoïde, pas vraiment paranoïaque, peu importe le diagnostic. Dans son histoire, et sur les textes de Freud tout simplement, et même sans prendre, ou les mémoires du président Schreber lui-même, hein, eh bien c'est un processus qui est à l'œuvre. Si la psychose... On devrait appeler ça le processus et logique de la psychose. Il y a des moments où le président Schreber ne délire absolument pas, retourne à une vie sociale tout à fait normale. Il est capable d'écrire ses mémoires d'une façon assez organisée et lucide et de discuter, invité chez son psychiatre à dîner, d'une façon tout à fait tranquille et raisonnable dans la raison critique de sa folie. Puis après, il y a des rechutes, etc., etc. Hein? Même dans le cas de psychose, dit Freud dans un de ses derniers textes en abrégé en 1937, même dans les cas de délire psychotique les plus avérés, il y a toujours une partie du moi qui est restée silencieuse dans un coin et qui a observé la situation, dit-il. Bon. Et il trace comme ça la vision d'une sorte de continuum entre, non pas la névrose et la psychose, mais la normalité et la psychose, dit-il. Bon. En fonction de la force du moi, c'est-à-dire des identifications primaires. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure à propos de ces pathologies de la désubjectivation, hein, qui est quelque chose d'un concept plus large et plus large et moins psychopathologique que celui des états limites, hein, parler en termes d'avatar de la subjectivation. Vous voyez bien que c'est pas pareil que de parler d'état borderline. Les états borderline, c'est entre névrose et psychose, c'est plus déficitaire que la névrose, ça l'est moins que la psychose. On est dans une vision un petit peu trop psychiatrique et déficitaire des capacités de symbolisation ou de la qualité du psychisme interne. Hein. Avec la subjectivation, bien sûr, c'est plus ou moins de sujet. Alors, on n'en sort pas vraiment. Mais quand même, c'est beaucoup plus subtil. Hein. Hein, puisqu'il peut y avoir des subjectivations paradoxales qui se cachent sous leur apparence de négativation. Je prends des exemples dans ce livre d'un patient psychotique qui a réussi à non pas à surmonter totalement son déficit schizophrénique grave, mais qui a pu utiliser à un certain moment son déficit et sa souffrance pour trouver un chemin d'issue personnel et singulier tout à fait original, où j'essaye d'y opposer aussi une jeune patiente adolescente qui recourt à un style borderline anorectique et qui trouve une sorte d'aménagement lui permettant de survivre, alors que, tout en la comparant à l'auteur dramatique britannique Sarah Kane, dont on peut considérer que le suicide était comme la preuve par excellence d'une créativité et d'une capacité de sublimation tout à fait réussie, du côté de la psychose, où elle avait une vraie pensée, mais une vraie pensée de sa psychose, peut-être plus forte même que le président Schreber, ou même quand il rédige ses mémoires, il délire encore un peu, alors que Sarah Kane, quand elle écrit des textes extrêmement concis et brefs, elle pense vraiment ce qui est l'essence de la psychose, un peu comme les premiers textes d'Artaud, avant qu'il commence à partir dans un excès de discours. Cet extrait de lucidité sur sa psychose lui a permis de se subjectiver, mais pas de guérir. Vous voyez, on peut dire que Sarah Kane, elle est morte guérie quelque part. Vous voyez, mais on sort d'une certaine conception psychiatrique de la guérison. De la même façon, on pourrait dire que les désengagements contemporains des sujets par rapport à eux-mêmes, dans la consommation, dans les pathologies de l'agir, dans tous ces phénomènes de masse que tu analyses si bien, c'est une dérobade qui se dissimule à elle-même tellement son existence qu'on est au-delà de la mauvaise foi sartrienne, à l'évidence, c'est autre chose dont il s'agit. C'est presque un crime parfait, cette dérobade. Le champ des états limites aménagés en faux self, catégorie un peu moralisatrice qui nous vient de Winnicott, ou en défense perverse, est extrêmement étendu dès lors qu'on le pense comme résultant d'une crainte du sujet que si il atteint la vraie satisfaction pulsionnelle, pas celle des pulsions partielles ou de la consommation pulsionnelle, mais des pulsions prises dans le désir, à ce moment-là, il risquerait de perdre l'objet. Ça, c'est une idée que je reprends et qu'on trouve chez André Green dans le travail du négatif, qui est, je crois, assez éclairante, qu'on trouve aussi dans le troisième des trois essais de Freud, où il dit, à l'adolescence, c'est terrible, il faut renoncer au premier objet, au sein maternel, il faut abandonner le réel de l'objet, c'est une sorte de deuil extrêmement difficile à faire, il faut s'engager dans la quête d'une vie d'adulte, se subjectiver vers on ne sait quoi, on n'est pas sûr de rencontrer les objets pour ses pulsions, on abandonne les objets du sexuel infantile, les objets partiels, on doit rencontrer un objet total et on risque de tout perdre, on risque de perdre le corps maternel, on risque de perdre le sein de la mère à la fois comme objet partiel et comme objet total de la croyance infantile, et on est jeté comme ça vers l'âge adulte, et bien c'est cela qui peut nourrir ces stratégies dérobades des sujets borderline contemporains qui croient d'un côté qu'ils peuvent satisfaire toutes leurs pulsions, jouir à tout prix, dit Charles Melmoth, que reprend Dufour, et d'un autre côté qui sont terrifiés par la vraie satisfaction qui serait de lier toutes les pulsions partielles dans la rencontre avec l'objet du désir au risque que la satisfaction soit telle qu'on perde l'objet ou qu'il soit perdu pendant un temps, en tout cas pendant le temps de cette expérience là. C'est l'amour fou selon André Breton, c'est cette affaire là si vous relisez Nadja, c'est le passage où Nadja, ils sont dans une voiture, elle est assise à côté de lui devant, elle pose son pied sur le sien, le pied qu'il a sur l'accélérateur, elle appuie sur son pied, mais il ne consent pas. Il ne consent pas à cette catastrophe-là, qui serait de se perdre soi-même et l'autre dans la folie de la folie, de la satisfaction pulsionnelle ou du désir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces pathologies limites ? Est-ce qu'on a vraiment encore de l'Œdipe ? J'ai dit qu'il y avait de l'interlocuteur, certainement. De la tiercéité, oui. Du père et de la mère, oui. Est-ce qu'ils sont bien triangulés dans l'Œdipe, comme le pense la psychanalyse ? Cela est moins sûr. Et là, nous avons quelque chose à penser, c'est ce que nous essayons de penser, aujourd'hui en psychanalyse. Ces défauts de triangulation, d'une part, et ensuite, va-t-on forcément essayer de trianguler ? Pas du tout. Pas forcément, justement. C'est un travail en cours qui sera peut-être publié l'an prochain. J'ai remarqué que très souvent, c'est l'absence de préconception avec des patients, l'absence de ce que Freud appelait des représentations but, des buts thérapeutiques, l'absence de projet même que je me faisais silencieusement dans mon esprit pour telle ou telle personne qui venait me consulter, qui permettait que je les accompagne au mieux, parce que je n'enfermais pas le travail qu'on allait faire dans mes représentations but, alors que les patients, eux, en ont forcément toujours tout le temps. Mais ça, bien sûr, ils vont les abandonner, les transformer en cours de route. Et que moins on a de ces représentations but aujourd'hui, plus on est apte à accompagner nos patients, sans se situer un peu en surplomb comme des idéaux du moi ou des moi idéaux trop élevés. Je vais en psychanalyse, c'est pour me transformer de telle ou telle façon, arriver à tel ou tel but. On essaye de limiter au maximum cet impact-là. D'essayer d'être des représentants surmoïques les plus souples présents pour être les plus souples possibles, pour être les plus présents et accessibles possibles, justement. Et permettre une véritable mutation et éviter ces analyses, ça existe quand même. C'est pas complètement la fameuse analyse en faux self dont parle Winnicott, mais quand même ces analyses un peu intellectualisantes où on peut repartir content parce qu'on a compris beaucoup de choses et beaucoup de vérités sur soi-même, où on a quand même surmonté certains symptômes et on s'est amélioré, mais où quand même il y a une certaine déception et de plusieurs années plus tard on refait une tranche, etc., etc. Et on voit ça, et on voit ça. Et là il y a quelque chose qu'en psychanalyse nous devons essayer de penser du côté de la technique. Bon, alors ça, c'est des séminaires que j'ai ailleurs, évidemment, qu'on discute ça plus en détail, mais du côté d'une technique qui serait celle d'une investigation, par exemple, menée par les deux protagonistes ensemble, dans ce style-là, pour permettre d'ouvrir les brèches dans la clôture de la pensée, pour éviter que la pensée se referme à nouveau sur elle-même, après l'échange, après l'interlocution, après la rencontre, qu'à nouveau ça se referme. Et qu'il faille retourner voir un psychanalyste 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, ou recourir à des médicaments, que sais-je encore, d'autres. Parce que la pensée, c'est à nouveau fermée. Où il s'agirait de concevoir le travail que nous faisons comme une co-construction du sujet à deux, justement où peut-être ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire de considérer que dans le travail analytique, nous ne faisons pas qu'analyser des transferts comme répétition de traces mnésiques issues d'histoires passées, déposées dans le sujet, transférées dans le travail analytique sur l'analyste ou dans les divers, le vécu de l'analysant entre les séances aussi bien, mais aussi de construire quelque chose de ce qui n'a pas été construit. À condition évidemment qu'il y ait eu un minimum de... C'est ça la question. Un minimum de choses construites dans les tout premiers mois de la vie, un minimum d'identification primaire, mais qui ont pu être éventuellement insuffisantes et défaillantes. Il peut y avoir des potentialités psychotiques, des failles dans les identifications primaires, et que malgré tout, on puisse, jusqu'à un certain point, créer du nouveau dans le travail analytique, à condition qu'il y ait véritablement une reconnaissance à deux de ces ratages primordiaux, qui sont des ratages non pas du sujet lui-même, mais de son fonctionnement familial, des autres de sa famille. Il n'est pas le seul responsable de cette affaire-là. C'est le groupe familial, voire même le groupe social, et que l'analyste lui-même non seulement reconnaisse ces traumas de son patient, et n'attribue pas tout à, simplement au fantasme du patient, hein, mais soit capable à certains moments de reconnaître que lui-même, hein, peut être impliqué comme sujet dans ce ratage de son patient, hein, que lui-même n'a pas entendu, n'a pas voulu entendre, a répété contre-transférentiellement des attitudes qu'ont eues certains membres de la famille du patient dans son enfance, hein, et que s'il le reconnaît, sans faire des mea culpa ridicules, évidemment, il ne s'agit pas de se mettre à... Hein, il s'agit d'être assez discret et sobre là-dedans, mais qu'il y ait une reconnaissance vraie, dont acte, hein, à ce moment-là, quelque chose du sujet d'Asic se remet en place, hein, de la réalité de l'autre interlocuteur. Que le lieu d'où l'analyste parle, à ce moment-là, c'est véritablement un lieu de la parole. Et c'est pas seulement l'analyse qui vient représenter le père, la mère du patient, que sais-je encore, qui est une incarnation d'un objet libidinal. Hein. À partir du moment où l'analyste s'implique véritablement et que ça devient sensible à son patient, les paroles vont être reçues autrement. Hein. Et nous, nous savons bien que la même interprétation dans son contenu, hein, faite à deux moments différents d'une analyse, par deux analystes différents, imaginons, mais surtout sur un ton différent, vont avoir des effets tout à fait différents sur le patient. Hein. Alors, ceci suppose, pour les psychanalystes, qu'ils soient partie prenante aussi, hein, de la réflexion, de la raison critique sur cette crise de la modernité, hein, qu'ils sachent eux-mêmes remettre en cause leurs propres dogmes, leurs propres doctrines, hein, puisque la théorie tend toujours à se refermer en doctrine, inévitablement, ou en idéologie, hein, et qu'ils soient capables de sans arrêt de critiquer leur propre mythologie, hein, pour retrouver ce qui est premier dans la psychanalyse, c'est-à-dire sa méthode, hein, qu'ils sachent se défaire de leur ego, hein, et de retrouver les chemins de leur propre subjectivation, leur propre chemin d'analysant permanent, en quelque sorte. Hein. À partir de ce moment-là, je crois qu'ils ont, j'en ai l'expérience quand même maintenant, avec beaucoup de patience, c'est le problème aussi, hein, c'est des traitements analytiques souvent assez longs, c'est beaucoup de patience, c'est ne pas en rester à la surface des choses, ne pas se laisser leurrer par les discours étranges, de ces nouvelles demandes de psychothérapie qui débarquent chez les psychanalystes, et puis les psychanalystes complètement étonnés de voir des gens dire des choses pareilles qu'ils n'ont jamais entendues, des analystes déjà... de la génération d'avant la mienne, hein, et qui sont complètement un peu désarçonnés par les modalités de vie et de discours de beaucoup de gens d'aujourd'hui, et qui croient qu'il n'y a plus d'inconscient parce que les gens ont l'air de tout savoir, jettent tout sur la table comme ça. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est des formes subtiles et complexes de dérobat de défense, et que si on sait un peu se décaler et attendre, on va retrouver véritablement aussi les conflits psychiques internes. Hein. Alors à la fois les conflits psychiques internes classiques, à la fois les nouveaux conflits psychiques borderline dont j'essayais de montrer qu'au fond Freud commençait déjà à en parler si on le lit attentivement, hein, bien que ce ne soit pas au cœur de sa théorie, ça c'est sûr. Hein. Mais dès qu'il parle clinique, il parle que de ça, parce que tout de même, j'ai cité Schreber, mais l'homme au loup, vous connaissez un peu, il y a le moment psychotique de l'homme au loup, son hallucination d'enfance, son souvenir d'enfance où il voit son doigt coupé, hein, et c'est à partir de là que Lacan a construit toute sa théorie de la forclusion. Donc la névrose obsessionnelle de l'homme au loup, il y a aussi un moment psychotique, il y avait aussi une histoire psychosomatique chez l'homme au loup, et Freud dit qu'il se met à fonctionner sur le mode d'un déni fétichique qui organise tout son être au monde sur un mode, et toute sa sexualité sur un mode fétichique, ce qui lui permet de ne pas devenir psychotique, alors qu'il l'a décrit comme un névrosé dans un premier temps. Donc il y a une surcharge diagnostique chez l'homme au loup. Dora, fragment d'une analyse d'une jeune hystérique, elle avait 14 ans quand elle rencontre 14-15 ans quand elle rencontre Freud. On peut pas dire que c'est une névrose classique. Elle est surchargée d'un retour du refoulé permanent. Elle est habitée, elle hallucine pas, mais elle est complètement obsédée, cette fille. Hein, une obsession sexuelle majeure, hein, permanente. Il y a un déficit de refoulement. Elle est habitée, et finalement, très vite, Freud comprend que c'est pas seulement sa propre névrose à elle, Dora. Hein, c'est aussi toutes les transactions familiales entre le père de Dora, l'épouse, enfin la mère dépressive de Dora qui reste dans un coin, et les transactions entre les meilleurs amis des parents, hein, les transactions où le père de Dora laisse à son meilleur ami faire la cour à sa très jeune fille, en échange de quoi il a la femme de cet homme comme maîtresse, et Dora est traversée, hein, c'est du transsubjectal, hein, c'est pas simplement la névrose d'un sujet, hein, elle est traversée par toute cette pathologie familiale. C'est une ratée du refoulement. On est bien dans l'hystérie, dans le refoulement, mais c'est l'échec du refoulement. C'est pas le refoulement réussi. Etc., etc. Même la névrose obsessionnelle de l'Obora, qui est la névrose la plus intemporelle, et on en trouve parfois des cas tout à fait typiques, et ça arrive, et là, des gens qui seraient comme un patient venu consulter Freud dans les années 20, on voit encore des gens comme ça, c'est du côté de la névrose obsessionnelle, du vieux professeur de philosophie de lycée, quoi, quelque chose comme ça. Bon, on trouve tout à fait ce tableau encore. Bah, quand même dans le cas de l'homme aura, il y a un moment de vraie folie borderline, quand l'homme aura se plante à poil la nuit devant le miroir chez lui, il se masturbe, et il se demande si son père est mort ou vivant. Bon, il y a un moment où la névrose est outrepassée par sa propre folie interne. Hein, c'est la folie, la névrose déborde la névrose et on a un état limite momentané, bien sûr. Hein, mais il y a quand même un moment où ce cas de névrose obsessionnelle n'est plus dans la névrose, etc., etc. Hein, donc, si nous avons cette patience éthique, hein, nous trouverons le moment où les clivages diminuent, je ne dirais pas qu'ils cèdent. Et quand les clivages diminuent, les clivages des fonctionnements limites diminuent, à ce moment-là, on peut faire de la psychanalyse. On retrouve un peu quelque chose qui ressemble à l'échec du refoulement. Et on travaille avec l'échec du refoulement, ça on sait faire avec. Hein? Mais ça peut prendre beaucoup de temps, d'où nos tentatives de technique active, d'où notre subjectivation, d'où ce que j'ai dit de l'interlocuteur, d'où on fait plus de face à face que jadis, on fait du psychodrame, on fait des thérapies de groupe mais psychanalytiques, on fait de la thérapie familiale mais psychanalytique. Bon. Hein? Parce que si on traite ces pathologies-là, ces fonctionnements-là avec la cure classique, on peut, mais ça prend beaucoup de temps. Hein? Et ça devient une pratique élitiste, un petit peu luxueuse, et qui a moins de prise politique sur la culture. Ça, c'est embêtant. Hein? Lorsqu'on retrouve le conflit psychique interne avec ces patients qui ont l'air borderline, et qui ont l'air de faire si peur à Charles Melman, hein, malgré tout, c'est plus tout à fait le même. Hein? Il est là, mais c'est plus tout à fait le même. Hein? Il est pris avec plus de distance, c'est la fameuse discordance dont je parlais tout à l'heure, hein, en citant Ricoeur. Et à la limite, ce conflit est un peu en intériorité extérieur à lui-même. Hein, c'est-à-dire que le sujet a acquis une sorte de conscience en surplomb, hein, par rapport à sa propre expérience subjective. Il en a moins la crudité et la naïveté que les premiers patients de Freud, très certainement. Hein. Et c'est le style contemporain peut-être de subjectivation, qui est le nôtre, tout à fait, hein, à chacun d'entre nous ici, j'imagine, hein, d'une confrontation avec soi-même qui en passe parfois par un certain vide. Hein, une fois épuisée, l'économie narcissique qu'a limite, hein, qui produit les recours à l'agir, les consommations pulsionnelles, les addictions, les somatisations. Une fois qu'on a laissé notre patient s'épuiser de cela et s'en lasser, de toute façon, lorsqu'il vient nous voir, c'est qu'il en est déjà là, généralement. Hein, déjà, hein, la moitié du travail est fait. Mais il doit continuer à s'en vider, en quelque sorte, de ses solutions imaginaires. Et il y a un moment où on trouve un espace de vacuité. Hein, un espace de vacuité qui est pas seulement le surmontement ou l'au-delà de l'Oedipe, le désêtre du sujet dont parle Lacan, une fois que l'analyse se termine. Qui n'est pas non plus le vide de l'élaboration réussie de la position dépressive dont parle Mélanie Klein et le courant kleinien de la psychanalyse. Hein. C'est un petit peu, à mon avis, autre chose. Hein. Ce vide contemporain. Bon, et qui correspond bien à ce que dit dans un certain désarroi Dufour de cette disparition du sujet de la névrose. Le sujet de la névrose, quand il est dans le vide, c'est qu'il est dans la castration, il est dans le manque, il est dans la frustration, la privation, hein, l'Œdipe dépassé, la dépression et la mélancolie surmontées. Alors du coup, il s'ennuie. Hein, il ne reste qu'à essayer de désirer à nouveau. Là, ce qu'on observe, c'est quand même un vide, quand même peut-être du côté de cette douleur d'exister ou de ces incertitudes d'être que j'évoquais tout à l'heure avec un vocabulaire quelque peu existentiel. Hein. Bon, est-ce que je vais encore continuer beaucoup ? Peut-être encore un tout petit peu. Je ne sais pas, quel est-il ?
On peut discuter,
hein. Bon, oui, je crois qu'on peut arrêter là. Je voulais juste conclure sur un petit texte de Freud où il compare la névrose obsessionnelle à la religion. Et non pas du tout, comme on pourrait s'y attendre, pour critiquer la religion d'une façon positiviste dans l'esprit des Lumières, un petit peu militant et à la limite un peu réducteur, qui était parfois le sien dans l'avenir d'une illusion. Hein? Mais pour dire que si on observe les rituels de la névrose obsessionnelle ou de la névrose de contrainte, la Zwangneurose, hein, eh bien, le névrosé, il est seul, il est privé de la présence d'une autre personne, traduction littérale, privé de la présence de l'autre personne, hein, et donc son économie libidinale devient de plus en plus narcissique, ses rituels obsessionnels deviennent de plus en plus fous, de plus en plus terribles, de plus en plus absurdes. On pourrait imaginer qu'ils évoluent jusqu'aux scarifications, aux automutilations de type psychotique qu'on observe aujourd'hui. Hein. Alors que, dit Freud, il ne dit pas au moins, mais il le dit presque, dans ce que nous pouvons observer d'un rituel religieux, la messe dans une église catholique le dimanche par exemple, eh bien là au moins, les différents névrosés sont les uns avec les autres, sont pris dans un minimum d'investissement objectable, qui est le lien social, puisque pour lui le lien social, hein, c'est un investissement de libido objectal qui est inhibé, c'est pas une sublimation, c'est un investissement objectal qui est inhibé quant au but, dit-il. Hein. Bon. Mais qui reste dans la tension, hein, qui permet au sujet de sortir d'une économie trop narcissique. Et il a l'air de trouver qu'au fond, la névrose ultra-individualiste, hein, en marche, contemporaine, moderne, libérale, libertaire, je ne sais pas, c'est pas mieux que l'ancien ordre symbolique, névrotique, pour autant. Hein. Alors on est en plein dans nos discussions. Et de cette modernisation qui semble avancer contre notre modernité à nous, à laquelle on tient, on ne peut pas faire trop autrement. Hein. Sinon, on est dans le vide dont je parle. Hein. Si on lâche notre modernité, hein, c'est notre identité nationale, enfin fondamentale, hein, occidentale, et on est peut-être menacé par des formes de modernisation capitaliste, en effet, qui elles, ne se privent absolument pas des rituels traditionnels. Hein. Bon, non seulement, je sais pas, des rituels traditionnels mélangés à la fois de la Chine ancienne et du stalinisme en Chine, par exemple. En Inde, c'est encore autre chose. À Qatar, c'est encore autre chose. On pourrait imaginer un califat mondial qui fonctionnerait très bien avec une économie libérale capitaliste et qui se passerait totalement de notre modernité. Hein, et qui moderniserait à outrance avec toutes les technologies modernes. C'est pas impensable.
Ah, ouais. Là, on a vraiment peur du
sujet. Mais là, il y aura plus de psychanalyste. Mais en même temps, comme tu dis, bon, il est peut-être possible aussi de voir que cette modernisation, on peut la retourner, opérer une négation de la négation, enfin, qu'il y a des stratégies possibles, etc. Bon, hein, et que ça ne nous échappe pas forcément complètement. Voilà. Au sein de la psychanalyse, j'ai témoigné d'un effort de pensée qui ne se replie pas, qui ne se recroqueville pas uniquement sur le moment de modernité qu'a été l'apparition du freudisme, c'est évident que c'est un grand moment de la modernité, hein, mais qui commence qui commencerait à être un peu postmoderne. Voilà. Hein. Eh bien non. Hein, on ne va pas se résigner à être postmoderne.
Bon, merci beaucoup François, c'était extraordinairement riche. et tout à fait au cœur de ce que j'attendais, donc je suis très content. C'était par ailleurs un discours de clinicien, ce qui évidemment... c'est dommage que Denis Dufour n'ait pas été là, cela dit, il n'aurait pas eu le temps de parler. Donc... tu lui avais rendu la tête.
Ah oui, c'est le shrink, le conducteur de tête.
Mais... Non, c'est dommage qu'il n'ait pas été là, parce que lui, il ne parle pas du tout en clinicien. Bon, il ne connaît pas. Ça aurait été... Bon, voilà. Mais tant pis. Je ne sais pas s'il aurait le temps d'écouter, mais en tout cas, j'espère qu'on va trouver le...
Ce sera une autre fois. Ou même, ne serait-ce qu'au colloque.
De toute façon, au colloque. Moi, j'ai pas mal de choses à dire, mais je voudrais, parce que comme je parle beaucoup, je vais peut-être essayer de me retenir un petit peu, puisqu'on a parlé de savoir se retenir. Donc,
tu nous donnes jusqu'à quelle heure, là? Il est 7h30, quoi.
En principe, on arrête à 8h, mais, voilà. Mais on peut déborder un peu, ça dépend un peu de toi aussi. On peut déborder à 8h, 8h15, quoi. 8h15, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non? Donc je me précipite à prendre la parole, c'est ça?
Oui, c'est comme ça qu'on fait. Puis après, ils interviendront quand tu auras.
Bon, d'abord, je retiendrai, moi, mais peut-être que tu vas me corriger tout de suite, que ma lettre dans la civilisation serait donc le texte, finalement, de la crise de la modernité, depuis ce moment de la modernité qu'est la psychanalyse, qui, avec tout ce discours sur ces jeunes adolescents, c'est formidablement intéressant ce que tu as dit d'ailleurs, et je dois avouer que ça, alors que je m'intéresse tellement à ces questions, finalement je n'avais pas vu l'importance de ces passages. Je vais aller les lire dès ce soir. Donc il y aura une matrice là, dans ce texte-là lui-même, à revisiter en profondeur. Bon, ça c'est en soi un sacré beau chantier à proposer, et à proposer de revenir d'abord sur ce que tu as dit et y retravailler. Évidemment, autour de cette figure du père, de l'autorité humiliée et abaissée du père, et c'est autour essentiellement de ça que je voudrais t'adresser une question, une proposition qui passe par un concept que j'ai avancé qui n'est pas freudien. Je crois qu'il l'est dans son esprit, mais il ne l'est pas à la lettre, ça c'est clair, en tout cas c'est clair pour moi. Ce que j'ai appelé l'identification primaire collective. Mmh. Puisque j'ai développé cette idée que, alors là, pour moi, ça passe. Un des nœuds intéressants pour moi entre ton travail et ce que j'essaye de faire, c'est la relation entre subjectivation et individuation. Je veux dire par là que. D'ailleurs, je voulais t'apporter un livre parce que j'ai publié.
Simondon.
Voilà.
Tu l'as. Je l'ai pas acheté. Non, mais j'ai vu que c'était.
Non, mais je voulais te l'aborder, puis j'ai oublié. Tout comme j'ai un autre livre pour toi, d'ailleurs, que je t'avais promis, mais je me suis aperçu hier qu'il était resté à la maison.
Mm-hmm. Voilà. Une autre fois, écoute.
Et il faut absolument que je te les apporte. Enfin bref, excusez-moi.
Mais c'est Simondon qui est réédité avec une préface.
Voilà, j'ai fait une préface. Ouais. Et en m'appuyant sur une. Ce que j'appellerais un problème simondonien, que Simondon n'a pas vu d'ailleurs, enfin il l'a peut-être vu, mais en tout cas moi j'ai pas vu qu'il l'ait vu. Il l'a pas mentionné dans les écrits que je connaisse de lui, en tout cas, et qui est le problème de la de ce qu'on pourrait appeler l'identification secondaire et du conflit des identifications. La théorie simondonienne de l'individuation. Simondon, qui par ailleurs un lecteur absolument nul de Freud, hein, il n'a rien compris à Freud. Hein. Bon, ça ne m'empêche pas de considérer qu'il est très important, mais en même temps, il y a d'un seul coup, quand je dis ça, il y a un truc qui s'effondre. Hein, bon, c'est pas... Mais dans sa théorie de l'individuation psychique et collective, il y a un problème. Parce qu'il dit l'individuation psychique est une individuation collective, elle est toujours déjà une individuation collective. Sauf que il y a des tas d'individuations psychiques dans l'individu psychique et que du coup il y a un conflit entre l'individuel et le collectif évidemment, et qui rapporte à la question du primaire et du secondaire chez Freud. Alors, moi, j'ai avancé cette idée que toute individuation collective, de quelque forme de société que ce soit, je m'avance un peu là parce que je n'ai pas forcément les documents anthropologiques qui me permettraient de l'affirmer. Si Godelier était là, je le dirais peut-être un peu en tremblant. Mais toute individuation collective suppose ce que j'appelle une individuation de référence. C'est-à-dire que, alors c'est surtout, alors c'est particulièrement vrai dans les sociétés modernes, puisque ce sont des sociétés de très forte migration et de très fort flux, pénétration de marchandises, d'idées, d'objets et de migrants, etc. Ça circule de partout. Mais c'est vrai, à mon avis, de toute société, plus ou moins. Il y a des identifications collectives, on pourrait appeler ça des sous-groupes, dans un langage un peu sommaire, et puis il y a une individuation de référence, à laquelle, si on n'adhère pas, on est rejeté complètement. On est exclu, ça ne fonctionne pas. Or là, je pense que cette question d'identité nationale qui se pose en ce moment, c'est exactement ce problème. C'est qu'il n'y a pas d'identification de référence. Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? C'est pas du tout parce que les migrants ou les mômes d'aujourd'hui, etc., la refuseraient. C'est tout simplement parce qu'on ne la produit pas. Et donc, la question que je me pose, moi, c'est la question du système de production, de processus de... d'identification collective. Tu faisais référence à le genre et à son concept de la référence, précisément. Je pense que c'est de ça dont parle le genre. Je ne suis pas toujours tout à fait sûr, parce que je ne comprends pas toujours très bien.
Pas toujours très clair, parce que c'est une façon de relire Lacan et de reprendre Lacan, ouais, en s'éloignant de lui tout en restant dans sa, ouais, théorie. Donc parfois c'est difficile. Hein. Puis la référence, c'est le pater familias du droit romain. Pour lui, ça reste ce paradigme fondamental, oui, là, oui, malgré tout.
Et c'est là où moi je suis un petit peu. Bon, voilà. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller d'aller jusqu'au bout avec lui là-dedans. Cela étant, là où je voulais en venir, c'est que dans ce contexte-là, je voulais en venir à la figure du père humilié et abaissé. Il l'est par des processus que j'appellerais de désindividuation ou de désubjectivation, mais je dirais de désindividuation collective. Et là, c'est là que j'essaye, on en avait parlé la première fois qu'on a discuté, c'est là que tout à coup j'essaye de faire une relation avec Karl Marx. Parce que je pense que la figure humiliée et abaissée du père, j'en parle dans mes créances et discrédits, le deuxième tome dont on avait discuté, juste. C'est une figure du père qui n'a pas de savoir, c'est-à-dire qui est prolétarisé, soit comme producteur, soit comme consommateur, y compris comme ingénieur ou comme médecin, etc. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça concerne beaucoup plus de catégories de population que les catégories qu'on appellerait populaires. Bon. Ça concerne énormément de gens. Et au moment où se pose ce paradoxe de ce que tu disais tout à l'heure, certains disent qu'il n'y a plus d'inconscient parce qu'il y a tellement de savoir qu'eux, etc. Le problème, c'est que ce savoir est n'est pas un non-savoir, c'est une inscience. C'est-à-dire c'est un savoir qui ne sait pas subjectiver, qui ne sait pas individuer, et qui du coup est un savoir vain, un savoir pour rien. C'est comme si je savais quel est le jeu de l'adversaire et que du coup je ne peux plus jouer. Je peux plus jouer, parce que pour que je puisse jouer, il faut qu'il y ait évidemment quelque chose que je ne sache pas. Et du coup, ces savoirs deviennent non pas des non-savoirs, parce que ça, c'est justement ce qui donne du jeu, mais des insciences, c'est-à-dire des savoirs pour rien, des savoirs en vain. Dans ce sens-là, dans ce bouquin, j'ai parlé de vanité, véritablement, de la souffrance, vanité de... Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je veux en venir à ce que tu as appelé les ratages du groupe social. Parce que moi, je crois qu'il y a
du groupe familial d'abord, et puis du groupe social.
Voilà, du groupe familial, mais le groupe familial lui-même est inscrit dans un groupe social. Groupe social qui lui-même est inscrit sur un marché mondial. C'est-à-dire qu'il est massacré, quoi. Il est exposé à... Et tout ça, alors parce que moi, ce que j'essaie de fabriquer, en ce moment, c'est une économie libidinale capitaliste révolutionnaire. Je veux dire, voilà. Mon problème, c'est... La liquidation du capitalisme, c'est pas pour demain, donc il faut reconstituer une économie libidinale capitaliste, mais révolutionnaire. Faire une révolution du capitalisme. Et je pense que, alors c'est pour ça que Simondon m'intéresse, c'est parce que il pose une individuation psychique et collective irréductiblement, mais par ailleurs il pose des problèmes de ce que j'appelle moi de l'organologie, donc des modes de production.
Autrement dit, des dispositifs qui produisent du savoir, qui détournent ce savoir. Et c'est là d'ailleurs que Lyotard était intéressant. Parce que dans La condition postmoderne, qui est en fait pour moi le livre le plus intéressant de Lyotard, lui il disait que c'était un sous-rapport qu'il avait fait comme ça. Il traitait ça de très 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 haut. Bon, pour moi c'est ce qu'il y avait de plus intéressant chez Lyotard. Et là il parlait de la captation du savoir par les machines. Bon. Et je pense que c'est très fondamentalement le cœur du problème. Alors, ma question c'est celle-là. Est-ce que tu es d'accord pour dire que ces questions passent finalement par des sociothérapies, qu'il faudrait du coup faire de la psychothérapie des séances de sociothérapie, mais ça pose un énorme problème de comment tout à coup la thérapeutique devient de la politique ? Ce qui est quand même évidemment pas simple. Je pense à Dominique Lecourt et Lysenko qui vont débarquer d'un seul coup en disant les Blacks maintenant vont se mettre à mobiliser la psychanalyse. Bon. Et c'est un sujet que je compte bien aborder avec lui parce que je l'ai invité à parler sur ces questions. Et d'autre part, est-ce que tu serais d'accord pour dire que ces questions. Alors. J'ai noté ce que tu as dit sur le lien social qui n'est pas de la sublimation chez Freud hein, quand il parle de là. Bon. Alors moi je m'avance en posant que moi je pose que chez Freud, c'est peut-être pas toujours clair et ça il y a même sûrement des contradictions avec ce propos, mais que chez Freud il est quand même revendiqué clairement à un moment donné que le désir est irréductiblement passé par le tamis de la sublimation. Et ça je le crois beaucoup. Et que par ailleurs, et je m'arrête vraiment là-dessus, la perte de savoir, c'est ça la désublimation. C'est ce que Marcuse a entrevu, mais qu'il n'a pas vraiment vu. Parce que il a. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas vraiment vu ? Parce qu'il est très emmerdé. En marxiste un peu primaire qu'il est, c'est quand même un marxiste assez primaire. Il dit, mais le principe de réalité, de toute façon, est l'ennemi du désir. Parce que c'est vraiment là, c'est très très sommaire ce qu'il dit. Parce que le principe de réalité, c'est le principe de rendement. Le principe de rendement, c'est la prolétarisation. Ce qui est faux. Le principe de plaisir, le principe de réalité n'est pas du tout l'ennemi du désir. Bien au contraire, il en est la condition. Et bien, en revanche, là où il a raison, c'est quand il dit le principe de rendement est une impossibilité de réinvestissement du principe de réalité par le principe de plaisir. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'interprète ce que Marx appelle la prolétarisation, et ce que Simonon requalifie en disant c'est de la désindividuation. Alors, j'essaye, moi, ici, à Léry et ailleurs, d'ailleurs, à Ars Industrialis, de dire, mais en fait, il faut repenser, appelons ça des moyens de production du désir, et donc des processus de sublimation, et donc une nouvelle économie, une nouvelle organisation du travail, etc., etc. Est-ce que ça, ce que je dis là est cohérent avec ce que tu as présenté ?
Oui, je vais reprendre deux ou trois points de façon plus séparée. Ce que tu proposes, toi, comme concept dans la foulée de Freud, qui sont pas chez Freud, et qui sont dans la. Aller un peu au-delà, un pas au-delà, hein, de cette identification primaire collective, par exemple, hein, ou de. Là, c'est tout à fait typique. C'est un petit peu comme ce surmoi culturel, civilisé ou collectif dont il parle à l'aise. Hein. Je pense que ça n'est pas illégitime. C'est pas une façon compliquée de dire les choses. Si on réfléchit à l'importance qu'il donne au roman familial du névrosé, à la dimension intergénérationnelle, à la façon qu'il a de définir le surmoi, non pas comme l'intériorisation des interdits parentaux, mais le fait que le sujet a repéré que les parents, que le père et la mère, quand ils sont dans leur fonction parentale, sont eux-mêmes en train de s'identifier à leurs propres parents, ceci en remontant les généalogies bibliques de façon infinie, hein, qu'à ce moment-là, il y a une pensée du généalogique chez Freud qui, au fond, revient à dire que l'identification primaire au subject d'Asitch, si ça passe par cette relation duelle à l'autre, au père, mais il y a aussi une identification primaire du même type symbolisant à la mère, hein. Ce n'est pas un privilège paternel que d'être le pôle de cette identification primaire symbolisante. comme père et mère sont définis eux-mêmes dans leur propre relation généalogique, ou ce tiers dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, pour avoir accès au père, il faut le déconstruire comme père en introduisant entre soi et lui, entre soi et les figures névrotiques du père un tiers. Donc ça réintroduit un collectif. Alors en psychanalyse, c'est plutôt du côté généalogique, hein, c'est tout le roman qu'on trouve dans l'homme Moïse et la religion monothéiste, c'est totem et tabou, c'est du côté darwinien, ou plutôt lamarckien d'ailleurs de Freud, hein, bien sûr, hein, de cette transmission. Mais on peut aussi bien le penser sur un mode plus horizontal, une identification du groupe des pères PIRS, hein, du côté de la fratrie, d'une identification collective, bah, du groupe des gens, tiens, j'évoquais tout à l'heure, des gens qui sont dans la névrose obsessionnelle collective, la pratique rituelle religieuse. Là, il y a une prise en masse comme ça. Très certainement, et l'idée d'une prophylaxie politique des névroses, et le courant politique de la psychanalyse, hein, la gauche freudienne, disons, du début, tout ça n'était pas absolument absurde et légitime avant le stalinisme et avant le nazisme, dans les années juste après 1918, hein, il y a eu un moment comme ça, hein, alors le problème où nous sommes dans une contradiction, hein, c'est qu'aller trop vite du côté d'une sociothérapie, pour les psychanalystes, en tant qu'ils sont professionnels, dans le métier du psychanalyste, ou les psychologues, ou les psychiatres, hein, évidemment, si on leur dit ça, ils entendent tout de suite quelque chose qui est du côté des thérapies brèves, ou des groupes d'affirmation de soi un peu comportementalistes, et tout n'est pas absurde d'ailleurs dans les thérapies comportementales. Pas forcément, donc ça vient comme quelque chose qui va réduire encore plus le champ des singularisations les plus individuelles, des parcours longs des thérapies analytiques, et à ce moment-là, on va voir les psychanalystes tout de suite se braquer contre l'idée qu'il faudrait faire des sociothérapies. Alors que tel que tu les présentes, c'est plutôt, je dirais, complémentaire. Bon, alors il faudrait demander à ceux de nos collègues qui ont un petit peu essayé ça, ceux qui ont travaillé dans la psychiatrie de secteur, est-ce que c'est devenu. Il y a eu des tentatives qui ont été faites dans le travail de psychothérapie, dans le travail psychanalytiquement à plusieurs, qui représentait tout le travail en institution qui dans les années 70-80, et qui est actuellement réduit comme peau de chagrin pour des raisons soi-disant budgétaires, mais qui sont aussi en grande partie idéologiques, hein, de faire plutôt dans l'urgence ou la semi-urgence, ces médicaments, des choses parfois utiles, hein, mais de faire sortir les gens le plus vite possible de ce travail de qui est conçu comme justement, paradoxalement, comme une sociothérapie la plus rapide possible sur quelques semaines, avec du médicament, mais aussi de la sociothérapie, mais pas au sens où tu l'entends, hein, pas révolutionnaire, hein, réadaptatif, pour faire sortir les gens, réadapter le plus vite possible, et sans qu'il y ait de vrai suivi ensuite, où il n'y a pas de vraie statistique, et en plus, il n'y a pas de vrai suivi ensuite, et donc, même si on avait des repérages sur 20 ou 30 ans de ce que deviennent les gens qu'on traite comme ça, bon, enfin, je pense qu'on s'y retrouverait absolument pas. Hein.
En fait, donc, il faut. Je parle volontiers de sociothérapie préventive. Oui. Je veux dire par là qu'en fait, le social sécrète spontanément contre une pathologie qui est la sienne aujourd'hui structurellement.
Vous savez, il faudrait demander à nos collègues psychanalystes sud-américains, ils sont souvent. La psychanalyse s'est beaucoup développée en Amérique du Sud, hein, souvent proche de la psychanalyse française, hein, puisqu'on peut dire qu'il y a un courant au sein de la psychanalyse qui est représenté par la French Theory, hein, psychanalyse française, qu'elle soit lacanienne ou pas, hein, d'ailleurs, dans tous ces courants, et puis un courant plus américain qui bat un peu de l'aile, hein, puis aussi un courant kleinien assez dynamique en Amérique du Sud, mais que les Sud-Américains sont souvent assez proches, ils traduisent beaucoup les psychanalystes français, ils s'en nourrissent, bon, et justement, quand on voit arriver dans le master recherche, dans le DEA, là, de notre école doctorale de recherche en psychanalyse et psychopathologie de Paris 7, des Brésiliens, des Argentins, des Chiliens, des Mexicains, même maintenant on a des Colombiens, qui est de Medellin, enfin bon, des trucs comme ça, hein, qui sont des gens pour qui la psychanalyse est une façon de penser le monde aujourd'hui, hein, et de pas être dans la dépression postmoderne. Hein, et ça, c'est plus le marxisme, ils ont une sorte de psychanalyse. de psychanalyse, oui, militant. Et eux, ils disent, oui, par exemple, ils disent parfois dans leur dossier d'admission, puis après on les rencontre, je suis psychanalyste, j'ai une pratique psychanalytique. Ce qu'ils appellent comme ça, c'est très souvent, ils ont été dans les favelas à Rio, et puis ils ont fait du travail social, ils ont rencontré des gens, et avec ce qu'ils connaissent de la psychanalyse, et parfois assez bien, assez bon lecteur de Freud, ou eux-mêmes, on est un peu sur un divan, et ils essayent de construire des rencontres avec ces gens, des bidonvilles sud-américains, et de faire du travail social-politique à visée psychologique, de psychothérapeutique, en faisant feu de tout bois, des groupes, des observations, avec une sorte d'optimisme comme ça, tout à fait incroyable, loin du pessimisme freudien de malaise, d'ailleurs. Bon, alors, ce que ça donne en pratique, je sais pas, il faudrait voir, et peut-être qu'aussi qu'ils se racontent beaucoup d'histoires, que ça tient pas. Je sais qu'aussi les psychanalystes de Buenos Aires, installés dans les beaux quartiers, qui ont longtemps vécu dans une sorte de monde complètement isolé, de grande bourgeoisie, comme ça, comme s'ils étaient, pas en Amérique du Sud, mais en Europe, hein, identifiés comme référence à l'Europe, bah quand même, depuis une quinzaine d'années, de plus en plus, ne serait-ce que pour pouvoir vivre, se sont mis à faire des tonnes de travail, de la psychanalyse sociale, hein, des groupes, des ceci, des cela. Hein, bon.
Cela étant, moi, par rapport, parce que un des motifs de cette transformation du thème des modernités en une modernisation sans modernité, un des motifs qui n'est pas caché, hein, que je revendique pleinement dans le courrier que tu as eu, c'est de réinventer une modernité. Parce que moi, je ne crois pas à une modernisation sans modernité. Je crois que c'est absolument impossible. Parce que je ne pense pas qu'une modernisation sans modernité, c'est une modernisation sans désir, c'est-à-dire c'est une barbarie. Ça peut exister, bien entendu. Mais c'est absolument invivable. Alors peut-être que c'est notre destin, hein. C'est possible ça. Hein. En ce moment, on peut se dire qu'en effet, c'est certainement notre destin. Mais ma conviction profonde, c'est que c'est un destin inacceptable et qui conduit à Sarah Kane et inévitablement à des catastrophes de ce type. Je crois que la question doit être posée à un moment donné. De mobiliser la communauté des psychanalystes, et pas simplement de terrisser la psychanalyse, d'interpeller le monde économique sur ces questions. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je pose aujourd'hui, alors là je passe vraiment sur un registre très très, comment dire, extraordinairement général, et c'est sûrement trop pour être pour rester longtemps sur ce registre-là, mais que le modèle de production industrielle existant est devenu intrinsèquement pulsionnel. Il ne peut fonctionner qu'à l'impulsion. Pour des raisons très simples, qui sont que ces rythmes de rotation sont tellement rapides qu'ils sont incompatibles avec le désir. Le désir, c'est lent. C'est une temporalité lente. La pulsion, c'est extrêmement rapide. La pulsion peut être à la milliseconde, à la limite. Bon. Parce que ce sont des mécanismes réactifs au sens biologique. Et donc on peut exploiter, et d'ailleurs ce qu'on voit l'évolution du neuromarketing actuellement, etc., c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se dit, maintenant on court-circuite l'inconscient, on court-circuite le désir, on court-circuite tous ces trucs, on s'adresse directement à la pulsion, scientifiquement. Bon. Et on met en place les... Et ça c'est mortel. C'est mortel pour des tas de raisons. C'est très payant à court terme, ça peut permettre de faire des fortunes très rapidement, mais à long terme ça ne peut que détruire le collectif, c'est-à-dire le système. Et donc tout le discours que je tiens aujourd'hui, c'est de dire, si vous voulez, messieurs les investisseurs, les entrepreneurs, aujourd'hui, bâtir une économie qui tienne la route, au moment où, par ailleurs, le problème est de baisser la production de CO2, etc., le CO2, c'est la pulsion qui produit la CO2. Le CO2, c'est la pulsion. Le désir produit de la sublimation. Donc il peut transformer le CO2 en toutes sortes de trucs. Bon. C'est ça la sublimation. La sublimation permet de transformer toutes sortes de choses. Pas pour rien que. Mais si, bien sûr que si. Bien sûr que si.
Non, je suis d'accord sur le fond.
Non, mais si on veut pouvoir produire appelons ça des insurrections collectives comme condition pour limiter les ratages, ce que tu appelais tout à l'heure les ratages. Si on dit que c'est ça la condition, mais que c'est ça le politique, que c'est ça le sociothérapeutique, en règle générale, que ce soit la religion, la magie, ou c'est ça, ou le sport, bon, c'est, même quand on fait faire du sport au monde, c'est ça, ça sert à ça, fondamentalement. Alors, la sublimation est un truc magique. C'est-à-dire que la sublimation permet, en effet, d'opérer des transformations qui sont au-delà de la rationalité fonctionnelle. Parce qu'il y a deux types de rationalité. Une rationalité de la pulsion, c'est celle de Noël Forgeard, et il y a une rationalité de je ne sais pas quoi, et c'est celle de Léonard de Vinci, c'est celle de... etc. Bon, et je ne veux pas accabler le pauvre Noël Forgeard, parce qu'il y a un Noël Forgeard dans Léonard de Vinci, bien entendu. Et j'espère que réciproquement, peut-être, ça ne serait pas impossible. Voilà, il y a toujours de l'espoir. Enfin, je m'excuse de faire un peu des images, mais quoi qu'il en soit, je dis ça parce que c'est pour clarifier. Enfin, pour,
j'entends, et moi ça m'intéresse beaucoup, mais je crois que la plupart de mes collègues, une grande partie, ne se posent pas ces questions-là. Ceux qui se les posent sont restés dans le moment un petit peu projet d'autonomie, l'imaginaire radical. Castoriadis, quelque chose comme ça. Hein, ils sont plus dans une conception de l'individuation, hein, pour reprendre ta question tout à l'heure, du côté des idéaux d'autonomie post-adolescent, hein, ou des côtés d'une idéologie un peu libertaire d'après 68, les avatars du freudo-marxisme. Ceux qui s'intéressent à ça sont plutôt quand même de ce côté-là. Hein, il parie un petit peu sur ce que j'essaie de développer, c'est-à-dire de maintenir le projet de l'individuation psychanalytique pour le plus grand nombre, même si c'est un nombre limité, de ne pas céder là-dessus du tout, hein, et de constater que quand on tient, et en étant attentif en même temps à ce qui change à l'air du temps, hein, on peut continuer à être psychanalyste et avoir des résultats. Pour le reste, cette prophylaxie, ce travail prophylactif, cette façon de réinsuffler dans le lien social des banlieues, je sais pas, par du sport fait l'été ou du théâtre, alors toutes ces choses-là, beaucoup de mes collègues, quand ils sont confrontés à ça, ils s'inquiètent aussi du fait que très vite c'est repris dans des discours idéologiques un petit peu réducteurs par des militants du social, des éducateurs, etc., etc. Hein, et ça donne, et alors voilà, ils sont ils sont dans une défense de quelque chose, de la complexité par rapport à des simplifications. Et donc ça rend la question de notre intervention sociale difficile.
Mais là, ce dont je parle, c'est encore autre chose, parce que en ce moment, je soutiens l'idée. C'est un concept d'amateur, on en parle avec Sébastien Rogier, d'ailleurs bientôt ensemble dans un projet éditorial, où je pense qu'un nouveau modèle industriel doit être produit là-dessus. Et alors là, c'est pas simplement d'organiser des thérapies de groupe ou je sais pas quoi. Non, c'est de dire carrément faut réaliser tout le capitalisme. Je renvoie à des choses très, on va dire, on n'a pas du tout le temps de développer ici et qui serait un peu exotique, mais je le dis quand même parce que sinon ça va rester un peu confus mon truc et incompréhensible. Moi je crois que le modèle qui reposait sur l'opposition production-consommation, qui est-ce qui produit l'humiliation du père, en réalité? Enfin, c'est pas que ça, bien entendu, mais c'est un élément fondamental. Et y compris dans ce qu'on appelle la névrose viennoise, ça passe aussi par là. Ça passe par une certaine modernité, alors elle qui est une modernité du capitalisme, et qui induit dans la destruction des grands empires, qui induit ce que Proust décrit dans La Recherche du Temps Perdu, c'est-à-dire la montée des vers du Rhin, ce que déjà Flaubert appelle l'art industriel, le sur Arnoux qui règne maintenant sur Paris, etc. Bon, et qui, tout ça, constitue finalement une progressive, c'est déjà le début de la mélancolie qui est en train de bon, et qui, chez certains, est vécu comme dans leur chair ou dans leur très très durement, y compris d'ailleurs dans les tranchées, et où ils vont se faire massacrer, soit comme prolétaires, soit comme soldats, soit comme grands hystériques qui vont en prendre plein la gueule parce que tout le système. Alors, je vais très vite, hein, bien entendu, mais ça repose sur un modèle organisationnel des relations de la marchandise, c'est-à-dire du symbolique. Parce que Parce que au bout du compte, le symbolique, c'est la marchandise. Ça passe par la marchandise. C'est là que...
Les travaux, les premiers textes, les tout premiers livres de Baudrillard, ou Jean-Jacques Rousseau au début,
c'était ça.
Ça partait de Marx, ça prenait Marx de
ce côté-là. C'est ce qu'il a malheureusement lâché.
Oui, bien sûr.
Ce qu'il a malheureusement... Parce que ça, c'était passionnant. Ça passait par Simondon, d'ailleurs. Alors, ça, je pense qu'aujourd'hui, ça a produit une machine libidinale extraordinairement efficace, qui a donné Hollywood, John Ford et tout ce qu'on veut, bon, qui a été fabuleuse. Mais aujourd'hui, ça s'est effondré. C'est-à-dire que le filon est épuisé, je crois. Et pourquoi ? Parce qu'il est allé tellement loin dans la prolétarisation du consommateur et pas simplement du producteur, qu'il n'y a plus de reconnaissance symbolique possible. Il n'y a plus de circulation, tout simplement, des marchandises. Ce ne sont plus des marchandises qui circulent. Parce que la circulation, ça procède du commerce. Or, le commerce, c'est le mercès, c'est-à-dire le don. Il y a quelque chose toujours dans du don dans une circulation. Toujours.
Oui, il y a toujours mousse, là, avec le don contre don, le symbolon qu'on remet en face. Il y a tout ça.
Mais ça, moi, je pense que l'économie. Alors là, je suis assez proche de Bataille, ou dans une approche très. Enfin, évidemment, Bataille, c'est les années 30. Bon, aujourd'hui, ça passe par le logiciel libre, par tous ces machins-là, par les technologies contemporaines. Ces technologies sont des technologies qui rompent avec ces modèles de production-consommation. Donc moi, je rêve, avec Eric, on va se voir bientôt, avec Philippe Lemoine de Laser Group, etc. Bon, je rêve de dire, on va réunir des gens qui sont vraiment des spécialistes du symbolique, des cliniciens qui se tapent, là, le cambouis ou la merde sociale, etc., mais qui ont aussi des conseils, etc., et qu'on commence à discuter sérieusement avec des gens du business, etc. Mais si vous voulez en faire du business, il y a des conditions. Et aujourd'hui, ces conditions ne sont plus réunies. Nous, on peut vous. Tu vois. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on peut ouvrir ce type de discussion. En tout cas, ce que je voulais dire en disant ça, c'est que quand je...
Car c'est un nouveau capitalisme rénant, éclairé, enfin quelque chose comme...
Oui,
quelque
chose oui, j'ai pas envie de dire ça, moi.
D'une
certaine
manière, c'est ce que je demandais finalement à la psychanalyse, d'une manière très symbolique et générale, c'est une repolitisation de la psychanalyse, à la fois sur le plan théorique et sur le plan de la pratique. De la pratique psychanalytique, je crois que c'est finalement là qu'il y a un vrai enjeu qui permettrait à la psychanalyse de faire une espèce de retour et de en termes de raison critique contre la barbarie et qui serait aussi une manière de ne pas laisser pour le dire très rapidement, au cognitivisme, finalement, la réduction au pulsionnel ou la réduction du pulsionnel.
On va peut-être être obligé, justement, ça va prendre du temps, je crains
que la plupart de nos collègues ou des sociétés de psychanalyse soient excessivement prudents en ce domaine. Soit plutôt sur cette ligne que j'ai évoquée de maintenir cette espèce d'espace épistémologique sauvegardé pour que la psychanalyse puisse continuer à se transmettre et à survivre et à se pratiquer, mais que néanmoins il y a une telle urgence de cette occupation du terrain par des formes de thérapie comportementale, par le médicament, mais aussi par des formes de thérapie qui sont autres que comportementales cognitives, qu'on voit quand même beaucoup de nos collègues assez inquiets essayer de reconquérir avec des technologies nouvelles d'intervention thérapeutique du terrain, et qu'à ce moment-là, ils sont confrontés à des situations sociales. À ce moment-là, ils sont obligés de réfléchir à ce qui se passe au sein de la psychiatrie, au sein de l'éducation, au sein de la famille. Et que donc, ils sont eux-mêmes pris dans cette réflexion sur la modernité, mais ils y sont pris certes comme praticiens, ils y sont pris plutôt comme individus et comme citoyens, et pas encore comme collectif des psychanalystes, comme le groupe des psychanalystes qui interviendrait là-dessus. Là, je crois qu'il y a un certain retard qui peut être inquiétant, qui peut nous faire dire dans des conversations privées qu'on a parfois entre nous, mais est-ce qu'on sera encore là dans 50 ans, ou est-ce que telle ou telle société d'analyse sera encore là, est-ce que, voilà, on est dans des choses comme ça.
Ce qui est vraiment dans la mesure où la psychanalyse prend des contraintes terribles. Dans le discours
en général et dans la pensée intellectuelle contemporaine, la psychanalyse, enfin, prend plein la gueule. Et c'est vrai que enfin, pour fréquenter, enfin, avoir quelques amis qui sont analystes, on ne sent pas justement une sorte de rebond collectif.
Et on ne sent pas forcément une grande inquiétude non plus.
Oui.
Justement, parce qu'il y a une sorte d'assurance basique, même si le psychanalyste était chassé de l'université, c'est quand même pas le cas,
ou de la psychiatrie, ou je ne sais pas quoi, de l'édition, il y a une réelle autonomie de la pratique psychanalytique. Par exemple, en Angleterre, le groupe britannique, la British Society, c'est quand même, qui a été, hein, ça a un peu changé, une des plus créatives et brillantes dans les années 30, 40, 50, hein, actuellement n'existe quasiment que comme pratique libérale. Il y a bien la Hampstead Clinic et deux ou trois groupes comme ça où on fait de la recherche de psychothérapie institutionnelle. Ils sont assez absents de la psychiatrie, de l'édition, des universités. Hein. Et ils fonctionnent pas si mal que ça en pure pratique libérale, de par l'efficacité des traitements pour une certaine catégorie de demandes des populations. Et donc, c'est problématique. J'en parlais avec un collègue argentin qui était de passage à Paris récemment, qui s'intéresse à ces questions de politique de la psychanalyse, et il me disait, oui, quand même, quand je viens chaque fois à Paris, j'ai vraiment l'impression que parmi nos collègues les plus brillants et qui ont produit théoriquement des choses remarquables, eh ben, ils sont un peu dans quelque chose d'un peu hors temps. Ils sont installés rive gauche, ils fonctionnent un peu un petit peu en dehors de l'histoire. Hein. Bon, il y a quelque chose qui fonctionne quand même comme ça. Hein. Il y a aussi le fait qu'ils sont. Nous sommes quand même aussi dans des formes de temporalité par nos pratiques quand même assez lentes. Hein. Je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait, des générations d'avant, hein, il me disait, bon, on a déjà vu ça, c'est pas la première fois. Cette fois-ci, certes, les attaques sont plus ciblées, mais on est passé au travers de tout ça depuis le début. Et donc, il y a quand même une sorte d'auto-représentation des psychanalystes comme une sorte de horde sauvage, presque masochiste, qui serait ravi de se faire chasser de partout, hein, pour prouver son excellence et pour rebondir une fois de plus et prouver d'autant plus qu'ils sont là. Et ça a toujours été présent dans l'histoire de la psychanalyse, cette affaire-là. Et de se raconter que demain c'est fini et que la psychanalyse va disparaître demain. Et ça, c'était déjà là dans les discussions de la psychanalyse à Vienne et dès le début. Ça fait partie du mythe de la psychanalyse, que sa quasi-impossibilité. Je crois que c'est aussi pour ça. C'est pas une posture, c'est plus profond. Ça pourrait paraître comme une sorte de snobisme culturel de s'installer joyeusement dans une sorte de marginalité élitiste culturelle, voyez, chez Gallimard, hein, par exemple. Voilà. Bon, faire une psychanalyse un peu littéraire. C'est pas ça. Je crois que c'est plus profond. Hein. Bon, ceci dit, il y a aussi, je réponds un petit peu facilement là. Il y a une vraie. Quand nous on est dans nos affaires de subjectivation avec certains de mes collègues, par exemple, hein, d'un côté, et qu'on veut sortir d'une certaine monadologie psychanalytique, hein, de l'enfermement du moi dans le sujet, du sujet dans le moi, enfin bon, hein, là il y a des vraies questions épistémologiques. Hein, et que ce soit dans les courants de la psychanalyse post-freudienne ou de la psychanalyse post-lacanienne, puisque c'est ça qu'on a en France, au fond, hein, les post-lacaniens et les post-freudiens, qui eux-mêmes s'entrecroisent en permanence et se nourrissent les uns les autres, forcément, hein, vraiment émergent des vraies tentatives de reproblématisation théorique fondamentale. Alors c'est qui nous semble être la condition pour qu'on puisse justement, avec succès, se confronter à toutes ces questions-là. Hein. On a besoin de nouveau d'affiner certains outils théoriques pour pouvoir justement surmonter la difficulté où on est actuellement.
Merci.
Enfin, moi, j'ai des raisons de penser que ça, c'est plus inquiet qu'il n'a l'air de le sentir. Le milieu est quand même plus traversé.
Oui, surtout ces marges.
En réalité, c'est assez tranquille comme ça. Hein, mais on est quand même en permanence à l'université, on va perdre un temps fou dans des bagarres insensées pour le futur, pour ce qui va se passer même l'an prochain, pour ce qui va se passer après les élections, et puis les services de psychiatrie sont moins présents, et puis on se bat beaucoup là-dessus, et on est quand même assez inquiet, bien sûr. Hein. Et on entend des discours encore plus inquiets sur les marges du milieu. Ce collègue peut-être les moins psychanalystes, les moins assurés, des choses qui fonctionnent bien, hein, et qui sont dans des discours catastrophistes sur ces questions-là, parce qu'ils sont déjà à moitié prêts je dirais pas retourner leur veste, c'est pas ça, mais à se
réorganiser,
à composer, à se laisser imprégner une nouvelle forme. C'est une façon d'être de l'époque, c'est une nouvelle technologie de l'esprit. Qui sont d'autant plus réactifs et inquiets qu'ils sont déjà prêts à y être. C'est ça qui est remarquable.
Cela dit, c'est des témoignages vérifiants.
C'est le plus dogmatique des psychanalystes, c'est ceux qui sont justement prêts à tout d'un coup se retourner et à se mettre à former.
Cela dit, moi je suis. J'ai des raisons de penser. Au moment où la psychanalyse est extrêmement attaquée, etc., et alors là, par une organisation de la recherche, enfin, bon, ce sont des plans très, très, très menés en très haut lieu et de manière très systématique. En même temps, ces questions liées au désir et tout ça sont en train de pénétrer partout. J'ai fait une conférence à la Fondation pour l'innovation politique, ce qui n'est pas un truc gauchiste et marcusien. J'ai parlé de ça et j'ai été absolument stupéfait parce que je m'attendais à me faire complètement descendre en flammes, pas du tout. Et ça prouve que l'inquiétude est partout en réalité. Elle n'est pas simplement chez les psychanalystes, elle est aussi chez ceux qui les désinguent. Et c'est là qu'il faut, c'est là que c'est intéressant. Parce que c'est là qu'on se trouve confronté à ce que Lacan appelait le réel, quoi. Bon. Et là, il y a quelque chose de vraiment très très important à faire. Et il faut faire des prises de terre, c'est-à-dire il faut se renfoncer dans le réel. Bon, c'est très 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 important. Par rapport à ça, d'ailleurs, ce que je crois, moi, c'est parce que j'ai parlé de politique et de psychanalyse, mais en fait, c'est d'économie politique que je crois qu'il faut parler. C'est d'économie politique, pas simplement de politique. Parce que une des grandes maladies de notre époque, je parle de l'époque post-années 50, disons. C'est de dire il y a l'économique d'un côté, il y a le politique de l'autre. Non, c'est les deux. Et c'est là que la psychanalyse est vachement importante, parce qu'elle permet justement de.
Oui, mais moi, il y a une unité, une serbe adolescence. Une serbe, c'est ceux qui ont voulu qu'il y avait de la ritaline à tous les enfants. Si la levée d'appuyer, je vais aller dans cette unité, une serbe, même si je dois y côtoyer, je vais aller à la PJJ. Et quand on va au CNU à la 16e section psycho du CNU, où il y a les trois quarts des représentants élus sont des cognitivistes, au fil des années, donc le quart de représentants de l'orientation psychanalytique, ils nous disent, certes, ils veulent nous faire disparaître, mais en même temps, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils se posent un tas de questions, qu'ils ne sont pas tellement sûrs d'un tas de choses, qu'ils nous posent des questions, hein, qu'eux-mêmes sont parfois dans une critique épistémologique de leur propre modèle. Trop néo-positiviste, collectionnisme, et que donc les choses ne sont pas du tout si simples, c'est beaucoup plus complexe qu'il paraît.
Dans le monde, des gens très bien,
mais ça, c'est bon, ce sont les psychanalystes à l'université, ce sont les psychanalystes dans la psychiatrie, les noyaux durs des sociétés de psychanalyse se tiennent soigneusement à l'écart de cela. C'est une caractéristique de la psychanalyse française, ça, d'avoir des sociétés de psychanalyse assez dures, assez élitistes, des formations seulement à 55-60 ans, et l'âge moyen des membres, c'est 60 ans, hein, pour maintenir justement à long terme cette politique délibérée, pour maintenir à long terme sa taxe centrale qui tienne, et de déléguer à des groupes, à des universités, à des associations de sang, à un tas d'autres groupes qui sont à l'extérieur de la psychanalyse, tout ce travail-là, à des sociétés de psychothérapie, avec un groupe de psychodrame, d'intérêt pour l'enfant, pour l'adolescent, pour les drogues, pour 36 000 choses.
ou le psychanalyste vont, non pas en qualité de psychanalyste ou de société psychanalyste, mais ça va se masquer, comme disait la planche. Ça, c'est la psychanalyse française, contrairement à la psychanalyse sud-américaine, où les sociétés de psychanalyse officielles ont quatre fois plus de membres qu'en France. Hein, et c'est au sein des sociétés de psychanalyse qu'on fait tout ce travail de réflexion non strictement psychanalytique. Mais au risque aussi, peut-être, que ces sociétés, comme je vois quand j'y vais, souvent deviennent perdent un peu l'esprit, société psychanalytique de Vienne, cet esprit un peu pessimiste qui introduit de la critique dans l'économie politique, enfin introduire la critique justement. Ça vient des grosses sociétés qui sont un petit peu menacées par l'esprit psychothérapie. Hein. C'est ce que disait Rodinesco, hein. Le 21e siècle sera le siècle de la psychothérapie. Donc, pour répondre à Malraux qui disait que ce serait le siècle de la religion. On est un peu pris dans une tension là. Si on va dans ce sens-là, on risque de devenir des super psychothérapeutes aussi.
En tout cas, il y a une belle perspective de discussion, je trouve, qui s'ouvre. J'espère qu'on la reprendra avec Daniel Dufour. On essaiera
Il y a ce projet de colloque modernité-modernisation, donc
bien entendu,
pour fin 2007, début 2007. Fin 2007.
Et puis qui se fera beaucoup en ligne et en vidéo. Mm-hmm. Ça, je vais t'en reparler. Mm-hmm. Sur le modèle. Parce que...
Voilà, la lettre, c'est à Roya Green.
Bon, merci beaucoup.
Bon, ben, merci à vous.
C'était très, très passionnant.
Pour un début de collaboration Paris 7 et ton équipe ici.
Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà.